Bon lundi! On est lundi le 10 août. Il y en a qui ont recommencé à travailler aujourd'hui. Il y en a encore en vacances. Plusieurs Québécois en vacances, plusieurs gens dans la région de Québec parce que la circulation, c'était très mollo ce matin. La température, c'est 23 degrés actuellement. C'est 26 degrés. Mais avec quelques averses qui vont débuter cet après-midi, risque d'un orage. Quelques pauses en l'entour de 15h, 16h. L'humidex est à 31. Quelques averses qui vont cesser après minuit. Fait que c'est de la pluie qui s'en vient, guys. Généralement nuageux par la suite. Demain, c'est 40% de possibilité d'averses. On parle de probabilité qui se déroulerait encore une fois en après-midi. Et mercredi, c'est 24 degrés ensoleillés. Vous êtes à l'écoute de Boulevard 101, c'est l'émission En Jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Comme vous le faites toujours très bien, mais je vous le répète quand même, 418-971-1021 pour donner votre opinion. On va écouter des commentaires assez horribles dans quelques instants qui se produisent sur une espèce de série là, médias sociaux réalité, hein, je vais appeler ça comme ça. Mathias va nous démêler le tout. Donc on va avoir besoin évidemment de vos commentaires par rapport à ce qu'on va entendre. Je vous le dis, là, si vous êtes du style misogyne, vous allez peut-être être content, mais c'est pas notre style, nous, à Boulevard 102.
Si vous êtes du style misogyne, j'ose espérer que vous il n'y a personne qui nous écoute qui est fier d'être misogyne.
Non, c'est ça. Promène. Si vous êtes misogyne, vous n'êtes pas au bon poste de radio. On ne vous encouragera pas, mais pas pantoute. Donc, c'est ce qu'on va entendre. Puis également... Je vais faire entendre une vidéo de 3 secondes après ça. Puis je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo-là? Puis quand je vais vous le dire, vous allez être complètement consterné par la situation. Vous êtes en vacances, vous vous promenez sur la route, BLVD 102.1, c'est le meilleur moyen de nous écouter sur App Store et Google Play Store. C'est gratuit, vous téléchargez l'application. Et également, notre web radio sur blvd.fm. Les meilleurs moments de l'émission s'y retrouvent également immédiatement après l'émission. Au parleur intelligent, vous dites « Écoutez, BLVD 102.1 » et on apparaît directement dans vos oreilles. Salut tout le monde qui est à l'écoute, notamment Christian et Sylviane qui nous ont écrit. Bon midi la gang, merci d'être là. Mathias, explique-moi donc ça, là. Qu'est-ce qui se passe avec... c'est quoi, là, une genre de télé-réalité, mais ben sur ouais. Les médias sociaux, Médusa? Démêle-moi ça, là. Moi, je suis pas si in que ça, puis je suis certain qu'il y a des auditeurs qui ont mon âge, puis qui sont comme moi, là, qui sont suivent pas toutes ces séries-là de façon assidue. C'est quoi le concept? Pourquoi ça existe? Quoi cette affaire-là?
Si vous êtes comme moi, peut-être Jeff aussi, t'en as été victime, puis beaucoup d'autres. Ouais. Vous avez peut-être vu au cours des dernières heures ou des derniers jours beaucoup de personnes que vous avez aucune sainte idée c'est qui sur vos réseaux sociaux. Puis il y a plusieurs vidéos, puis du contenu. Puis notamment, la raison pour laquelle vous avez vu, c'est que plusieurs de ces... Un en particulier, Julien de Médusa, tenait des propos inacceptables. Ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé eux autres, le Stream Fest du côté de Miami.
OK.
Donc, c'est Julien de Médusa qui est connu notamment pour la vente de bijoux de luxe.
Ouais,
il
ouais.
fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà peut-être
pas loin
vu.
D'ici, je pense qu'il y a une boutique, dans le complexe Le Bourgneuf, là, les complexes à condos.
Il y a une boutique, puis il est revenu souvent dans les médias parce qu'il se faisait souvent voler sa boutique parce qu'il faisait des vidéos qui montraient tous ses bijoux de luxe.
Ouais,
donc les voleurs se rendaient là, évidemment. Puis il a organisé le Stream Fest à Miami. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué un méga yacht pendant une fin de semaine, puis il a invité 10 streamers québécois, donc des influenceurs québécois qui font des vidéos en direct. Donc pendant certains qui sont en se filmant, en jouant aux jeux vidéo, d'autres juste en
jusque-là, un party de riches, on s'amuse ensemble, on a du fun sur un yacht. Plus les gens qui veulent être curieux, qui veulent regarder, ben regardent ça.
Ils regardent parce que c'est tous des streamers, puis le but, c'était de créer du contenu. Donc, toutes ces 10 personnes-là diffusaient pas mal tout ce qui se passait sur ce yacht-là en permanence à longueur de journée.
Mais là, dis-moi donc, j'imagine il y a de l'alcool, peut-être de la consommation de drogue, il y a plein de choses qui sont mélangées à ça. Fait que ça fait en sorte que le cerveau humain, soit que la vraie personnalité ressort... ou soit qu'il devient complètement dans le champ.
Ouais, puis là, le premier extrait que je vais vous présenter, justement, c'est Julienne Médusa. Puis en fait, tous les extraits controversés que vous avez vus sur les réseaux sociaux, c'est lui, là. En gros, ce qui se passait, c'est la première soirée, il n'était pas satisfait du service qu'il avait sur son yacht qu'il a payé au gros prix. Donc, il s'en est plaint, visiblement alcoolisé, dans l'un des streams avec des propos qui n'ont aucun bon sens.
Excellent. On rappelle, il a payé 180 000 $ hein, pour le yacht pour la fin de semaine. Excellent. On écoute ses propos qui, ma foi, dépassent complètement l'entendement.
Qui au prix qu'on paye, tabarnak, 180 000, ça devrait être tout nu, man. Ça devrait coucher avec toi et te faire des pipes dans les toilettes.
Je vais voir s'ils vont faire.
Chris, tabarnak, là, Chris, à ce prix-là, man, tu te mets à quatre pattes pour tous les clients, là. Tu comprends? Là, il va y avoir un clip de Médusa misogyne, comment regarder comment il parle des femmes. Ma calice! Man, Chris, est-ce que vous pensez de moi? Rien à foutre, allez chier. Médusa, bande de Québécois et d'hommes.
Ben, je pense que c'est un gros colon, là.
Mais non, mais il va avoir un clip de moi qui dit « Médusa, mais je misogyne ».
Ben oui, c'est clair que
Médusa... Parce que tu l'es.
C'est ça, exactement. Non, mais parce qu'il paye 180 000 pour un yacht, faudrait que s'il a le goût de se faire sucer la graine, les filles ça penche.
Ben, de la façon
c'est ce que
parle,
je comprends.
Oui. Même si, puis je le rappelle, il est sur un yacht, fait qu'il y a probablement des cuisinières, des serveuses, des personnes qui sont là pour toutes les raisons, sauf se mettre à quatre pattes pour Médusa.
Ben, exactement.
Mais lui, vu qu'il a payé... bon, je devrais pouvoir faire ce que je veux, tu sais, avec ces femmes-là, comme si c'était des
les
objets.
Femmes devraient être des prostituées. Dans le fond, c'est, voyons, le rappeur là, qui a été reconnu coupable, là, mais pas nécessairement sa juste valeur, là, c'était P. Diddy.
Ouais, P. Diddy, ouais.
Ouais, qui faisait ça, là, des espèces d'orgies, puis toute la kit, là. Fait que dans le fond, Médusa, parce que j'ai de l'argent, je peux agir en P. Diddy.
Ben, je fais ce que je veux.
C'est pas mal,
les,
ça.
Les femmes qui sont là, non, sont pas payées pour ça, mais moi, vu que j'ai payé cher et que j'ai mis bien d'argent dans cette yacht-là, je peux les utiliser comme que je veux.
Exactement. Bon, ça va bien. C'est vraiment bien, bien commencé. Ça va bien aller, ces commerces. Hein? Lui, il veut vendre des bijoux aux femmes, j'imagine, beaucoup, hein?
Ah, aux femmes.
Ça va bien aller.
Oui,
ça va bien aller. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Moi, je suis content que des personnages comme ça existent. Ça me permet de faire de la sensibilisation avec mes gars puis de leur dire « Hey, regardez de quoi faut pas que vous ayez l'air sur les médias sociaux puis regardez l'être humain que vous ne devez pas devenir. »
Parce que puis sur les réseaux sociaux, on est beaucoup à avoir vu des vidéos. J'ai regardé des commentaires en dessous de beaucoup de vidéos. Beaucoup de personnes qui le défendaient. Moi, je pense que c'est ça qui m'a choqué.
Ben oui, c'est ça. Mais t'as tellement raison. Parce que c'est ce que je disais la semaine dernière sur l'avortement. Quand je disais, moi, ce qui m'énerve, quand un doom du mot sort pour dire « Ouais, t'es, vous savez, les politiques d'avortement », puis même si Éric Duhaime arrive après puis qu'il dit « Non, 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 on est pro-choix », c'est que toutes les cinglés sortent ces médias sociaux dans ce temps-là puis là, pensent qu'ils sont légitimes d'être misogynes ou d'être anti-avortement.
Tu sais, puis tu fais bien de dire « Hey, ça me permet de faire de la sensibilisation auprès de nos jeunes ». Tu sais, nos jeunes, c'est ces personnes-là qui écoutent, c'est ces streams-là qui écoutaient.
Oui.
C'était Julienne Médusa pendant des heures et des heures, parce que ça, c'est un extrait de 30 secondes.
Mm-hmm.
Mais c'est des heures et des heures et des heures de stream. C'est à longueur de journée presque qu'ils faisaient là, durant cette fin de semaine-là.
Non, c'est ça. Éloignez vos enfants de ces genres de streamers-là. Les femmes, allez pas magasiner des bijoux, même si vous avez de l'argent chez Médusa. Ils pensent que parce que, justement, lui, il a de l'argent, vous devriez manger à la graine, puis vous devriez vous mettre à quatre pattes devant elle. On a justement un commentaire ici. Une femme achète dans sa boutique. Est-ce qu'elle a le droit de faire n'importe quoi avec Médusa? En effet. Autre commentaire qui est rentré. La honte totale. Il a tellement l'air minable. Aucune classe, si tu veux, mon avis. Cette séquence est une présentation d'Hélène Boudreau. Je comprends pas trop. Par la suite, une méchante vidange. En général, les influenceurs, c'est des plaies dans la société. En effet, c'est carrément ça. C'est une genre de télé-réalité mal montée. Là, au moins dans Occupation Double, il y a des réalisateurs puis il y a des producteurs qui font en sorte qu'il y en a toujours là, une par rapport qui est frustrée après tout le monde puis qui essaye d'attirer le chum de l'autre. Mais ça, ça fait partie du casting d'Occupation Double. C'est pour que le monde reste à l'écoute. Il n'y a pas des propos là, misogynes et discriminatoires comme on entend là.
Puis il y a un texto qui vient de rentrer de Marc. Un beau colon qui se dévoile. Il y a plus de 5D qu'on pense autour de nous. C'est sûr que live 24/7, on est capable de trouver un extrait tout croche, mais bon, ça excuse pas.
Oh non, pas tout.
Puis Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que c'est pas juste un extrait. Là. Il y en a plusieurs, puis je vous en ai sorti un autre également, un autre extrait à une autre journée. Ça, c'est en plein milieu de l'après-midi. Ouais. Okay? Fait que, il n'y a pas nécessairement la consommation qui rentre autant que quand on était le soir dans d'autres extraits. À ce moment-là, Julien parle d'un homme qui serait dans la chambre de Cocotte. Cocotte, qui est une streamer extrêmement connue en France, mais qui est québécoise. Je vous laisse l'entendre. Là. C'est...
on se réveille dans la doute, on entend Cocotte crier. Ah!
Quelqu'un crierait de même?
Ben, je sais pas, là. Elle se fait, elle se fait attaquer, violer par un.
Wow, 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 on peut pas dire ça.
Ah non.
C'est bon.
Bon, à cette heure qu'on vient de légitimiser le viol, un petit verre, hein, les
on
gars?
Va-tu se prendre un petit shot?
Va-tu se prendre un petit shot?
Le malaise, puis avec
ben,
raison.
Le malaise avec raison. De toute façon, je pense que c'est pire que dire « Hey, ils devraient tous me faire une fellation à 180 000 $ parce qu'on vient donner aux hommes la permission de violer des femmes.
Tu sais, là, on projette une femme crie parce qu'elle se fait violer, puis on trouve ça drôle.
Ah, c'est ça qui se passe dans cet extrait-là. Elle se fait attaquer, mais elle se fait violer.
Non, mais c'est ça pour
on vrai. On va laisser ça de même, hein? On va prendre une autre shot, nous autres.
Tu sais, là, à côté de lui, c'est comme Lewis le fou, là, qui est bien connu à cause notamment des matchs de hockey. Il était aussi présent sur ce yacht-là. Des parties de hockey qu'il a organisées avec Oli Primo, entre autres, qui lui a comme dit, dès qu'il a dit « nos violés », qui a comme intervenu puis qui a dit « wow, 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 wow ».
OK, on entend Lewis le fou là-dedans?
Oui, Lewis le fou, c'est lui. En fait, c'est lui qui est à côté. Puis que quand Medusa se dit, elle se fait attaquer, elle se fait... Il y a un gars qui est à côté puis il dit « wow, 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 on arrête ça là ».
Okay,
ça,
parfait.
C'est Lewis le fou qui bon. A comme dit là.
Parce que là, moi, mes gars trippent sur Lewis le fou, là. Fait que au moins, il a essayé de raisonner Medusa.
Ouais, ben, puis il a quand même dénoncé ses propos et tout, mais il est resté sur le yacht toute la fin de semaine.
Quand même. Ouais, c'est ça que... l'affaire. C'est que, tu sais, dans ce temps-là, tu te dis, hey, tu fais une vidéo, là. T'es un streamer, là. Fait que fais une vidéo, puis il dit, moi, savez-vous quoi? Puis excusez-moi pour les gros mots en ondes, là. Je le sais qu'il est midi 13, là, mais je décalisse de ce yacht-là parce que ça n'a pas d'allure ce qui se passe. C'est ça que j'aurais fait.
Moi. Ben, de ce que j'ai vu d'ailleurs, Cocotte, qu'on a pu entendre dans cet extrait-là, a quitté le yacht avant la fin de semaine, puis a dit qu'elle se détachait complètement des propos.
Ben,
de
vois-tu, c'est. Exactement ce que les autres auraient dû faire. Parce que en société, quand tu fermes les yeux, quand tu tais, quand tu participes à une fin de semaine d'orgie misogyne comme ça, ben savez-vous quoi? Vous participez à faire en sorte que de plus en plus de misogynie dans la population, dans la société. Vous vous adressez à nos jeunes en plus, fait que vous les crainquez là-dedans, vous les crainquez d'avoir de mauvais comportements. Fait que moi, honnêtement, je m'attends à ce que tous les streamers qui étaient là-dessus, dans le prochain 48 heures, disent « OK, c'est beau, regardez, là, je l'ai échappé, mes excuses, je suis pas pour ces propos-là. » Je m'attends à ça.
Tu sais, excuse-moi, à partir du moment où ces personnes-là ont décidé de rester, puis il y a un auditeur qui nous dit que Cocotte serait resté. Honnêtement, j'ai pas tous les détails. Là. Je sais qu'il est resté quand même une bonne partie. À partir du moment, pour moi, que même s'ils sont pas d'accord avec ce qu'il dit, à partir du moment où il décide, moi, je reste là puis je profite de sa richesse quand même puis tout, que tu sois d'accord ou pas, ça envoie de un gros signal. Puis de deux, ton stream, là, t'as une responsabilité en tant que streamer puis en tant qu'influenceur.
Ben oui.
Parce que tu sais que tu parles à beaucoup de jeunes. Ces personnes-là ont choisi, malgré le fait qu'ils savaient qu'ils étaient à côté du GM de Medusa qui avait des propos inacceptables depuis le début de la fin de semaine, au début de la journée, de quand même animer leur stream en sachant que ça se pourrait qu'ils soient dedans, que ça se pourrait qu'ils redisent des propos inacceptables.
T'as raison,
et qu'ils leur base de jeunes entendent à nouveau cet idiot-là dire des propos misogynes. Ils ont quand même une part de responsabilité du contenu qu'ils diffusent, même si c'est en direct. Là. Tu peux pas te détoiner en disant
«
Non, non, c'est en direct, je m'attendais pas qu'ils disent ça. » T'as quand même choisi de rallumer le piton puis de remettre ton stream à on le lendemain.
Je suis d'accord avec toi à 100%. Énormément de réactions par texto. Continue à réagir au 418-971-1021. Puis l'autre qui dit « Chut, faut pas dire ça », on parle de l'extrait, évidemment. Mais pour moi, ça sous-entend, tu peux le penser, mais ne le dis pas. Entièrement d'accord avec toi, cher auditeur ou chère auditrice.
Et puis tu vois, il y a un autre texto aussi d'Alexandre. La seule raison pourquoi il lui dit de ne pas dire violer, c'est pour ne pas se faire couper par le bot de Twitch. Puis J'aime pas ça dire, mais ça se peut aussi parce que sur Twitch, t'as pas le droit d'utiliser certains termes en ondes, sinon tu vas te faire couper. Fait que ça se pourrait que ce soit la raison.
Ouais, il aurait mérité de se faire couper le clapet. Accusation criminelle en cours qu'Isabelle nous dit. Je sais pas si on va pouvoir aller jusque-là. Faudrait parler avec un spécialiste, ça me surprendrait, mon
Mathias. Ouais, puis honnêtement, tu sais, il tient des propos totalement inacceptables puis des propos épais. Je vois pas en quoi on pourrait amener ce gars-là en cours en raison
non,
de ça.
Non, c'est ça, exactement. La seule affaire, ben écoutez, arrêtez d'acheter dans ces commerces parce que vous avez vu c'est qui. C'est un gros colon de misogyne, Julien Médusa. Donc, arrêtez d'aller acheter dans ces commerces. Puis si vous avez des adolescents qui ont écouté ça, vous avez des adolescents comme moi qui trippent sur Loïs le fou, petite sensibilisation à soir sur la façon de traiter la femme dans la société, ça fera pas de tort à vos enfants pour vous assurer qu'ils... reste dans le droit chemin.
Pour clore le tout, Jimmy qui nous écrit « Allez-vous porter attention sur l'extra où il s'excuse à tout le monde? » On peut le mentionner à la fin du Streamfest, il a pris le temps de s'excuser, qu'il a tenu des propos inacceptables et tout. Pour moi, ça n'excuse pas. Tu dis des choses inacceptables à ce point-là, même si tu t'excuses après, là. Mais non. Bien paraître devant les caméras.
Mais non, exactement.
Tu vas pas m'acheter de même.
Ben non, pas en tout. Il y a du monde dans les médias qui ont perdu leur emploi parce que, justement, ils avaient dépassé la limite en termes de misogynie. Ils avaient dépassé la limite de la liberté d'expression. Puis ils ont bien eu beau s'excuser. Ils ont perdu leur job parce que ce qu'ils avaient fait puis ce qu'ils avaient dit... ça n'avait pas de sens.
C'est inacceptable. C'est des propos qu'on veut pas dans le public, dans l'espace public.
C'est ça. Fait qu'il y a bien beau une fois avoir dégrisé, mais déjà dire « je m'excuse », hey, non. Moi, l'alcool ne sera jamais une excuse. Tu pètes un plomb parce que t'es en alcool, sais-tu quoi? T'avais juste à en boire moins. C'est ça ta responsabilité. Non,
tu restes responsable.
C'est
de ce
ça.
Que tu
fais. Disais un paquet de conneries parce que t'es en alcool, t'avais juste à pas le dire ou à boire moins d'alcool. Sinon, on va dédouaner tout le monde de par juste un simple je m'excuse. J'ai dit que les femmes, c'est correct qu'ils se fassent violer. Je m'excuse, je pensais vraiment pas ça. Mais non, voyons donc.
Puis, tu sais, j'ai vu certaines personnes aussi en commentaire dire « Moi aussi, j'en ai dit des niaiseries sous alcool, puis dans des parties, puis tout. » Bon, honnêtement, moi je tiens à dire que j'ai jamais tenu des propos innocents de même sous alcool. Mais il y a aussi l'aspect que tu sais que t'es écouté, tu sais qu'il y a du monde qui t'écoute, puis que t'es devant un public. Ouais. Là, ce que tu vas dire à ce moment-là, c'est pas la même chose que si t'es dans un espace privé avec personne. Il y a une différence entre... ce que tu vas prononcer dans l'espace public puis comment tu vas t'exprimer dans l'espace privé aussi. Là.
Exactement. Puis on a cette responsabilité-là. Puis c'est là que je trouve que les streamers qui étaient avec lui n'ont pas pris leur responsabilité. Moi, vendredi passé, j'étais à la microbrasserie Ciboire avec ma gang de chums d'enfance. S'il y en a un qui se met à promouvoir le viol, je vais dire « Hey, ta gueule ». Puis là, tu sais, je vais te le replacer bien comme il faut. Puis ça se pourrait que je sacre mon camp de la table auquel... pas ça se pourrait, je vais sacrer mon camp de la table avec lequel je suis assis avec cet ami-là. Puis il ne sera plus mon ami. C'était ça, leur responsabilité à ces streamers-là.
Aussi simple
que ça. Puis ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit « les vues, l'argent. » Caroline qui mentionne « Marceau l'a eu, Médusa, dans un podcast. Est-ce que Boulevard va le retrouver? » Je veux pas parler pour mes patrons, mais certainement, puis soyez assurés qu'on l'aura pu. c'est je veux pas parler pour eux autres, mais si c'est moi qui dirigeais l'entreprise, ça serait pas mal comme ça. Je vous fais écouter une autre vidéo. Elle dure 3 secondes. Je la fais entendre une première fois. Puis je vais vous la faire entendre une deuxième fois après vous avoir dit où porter attention. Voici la première diffusion. Avez-vous remarqué quelque chose? 418-971-1021. Elle est 3 secondes. À la deuxième seconde, écoutez bien le bruit. Drôle, là. Pouf! C'est quoi ça, Mathias, ce bruit-là? Qu'est-ce qui est arrivé?
Ouais, c'est un individu qui est présentement recherché par la police du côté de Gatineau pour avoir asséné un violent coup de poing à une femme en plein visage samedi soir. Donc, le petit boum que vous avez entendu dans la vidéo, c'est le coup de poing d'un homme envers une femme à la sortie des bars vers 4 heures du matin samedi.
Un homme d'à peu près, je vous dirais, facilement un 250 livres bien planté. Là. T'es le genre de gars que moi, je me retrouve devant puis je me dis, hey, s'il m'en fout une, ça a gueule, c'est terminé.
C'est fini.
Et là, cet homme-là, avec sa charpente, a décidé de nicoter une fille. Un coup de poing sorti de nulle part. On pas un en face de l'autre, puis avant, on se bat, là.
Non.
Il s'engueule, puis bang, la droite sort, là, aussi rapidement qu'à l'intérieur d'une seconde.
Pour vous remettre l'image en tête, l'homme que vous avez entendu probablement insulter la fille dans une autre langue que le français pointait la fille avec son doigt. Dans la vidéo, la fille a simplement tassé son doigt. Fait qu'avec sa main, elle tassé sa main qui pointait. Puis l'homme, en réaction, il a craqué son poing de droite.
Exactement. Une fille d'à peu près quoi, 120 livres, même pas?
Ah, ben non, c'est ça.
La fille s'effondre au sol sur le dos, telle une poupée de chiffon. C'est clair, commotion cérébrale, il doit avoir des fractures au visage. Il faut retrouver cet homme-là.
Ah, 100%. Puis c'est le travail que la police de Gatineau est en train de faire. La femme qui a été transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins, on dit que sa vie est hors de danger, là, heureusement.
Oh, oui, heureusement.
Mais pour de vrai, es-tu rendu normal d'être violent envers les femmes?
Ben, c'est ça, là. Dans quel monde on vit? On vient de vous passer deux extraits où un homme d'affaires riche ici à Québec tient des propos misogynes qui ne font pas de sens. Promouvoir la culture du viol, puis là, il y a ses amis streamers qui disent pas grand-chose autour. Et là, on vous propose une vidéo où un homme de 250 livres met KO une femme de 120 livres pour un astinage à la sortie d'un bar. Hey, guys, faut se parler, là. Ça n'a aucun sens. On est dans une montée de féminicide, on est dans une montée de violence conjugale. Là, messieurs, si vous avez des problèmes d'impulsivité, si vous avez des problèmes de colère, si vous êtes frustré après les femmes parce que vous n'êtes pas capable de pogner assez, bien là, boutillage, c'est pas le problème des femmes, c'est votre problème, puis allez vous faire soigner, ça presse. Puis si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, pognez-les puis envoyez-les en thérapie, faites-les arrêter par la police s'il faut. On ne peut plus tolérer ça dans notre société. Ça n'a aucun sens. À chaque semaine, je tombe sur le cul de la violence envers les femmes. Là, il faut que ça arrête, là.
Tu sais, je veux dire, mettons dans ton temps, Jeff, là, quand t'étais jeune puis que tu sortais d'un bar, deux gars, ça commence
ben,
à brasser un peu.
Deux gars qui se
coltent
et qui se battent, ça.
Ça se bat, ça arrive, là.
C'est ça. Ça, c'est ça, le bar, là. Puis là, encore tantôt, je le redis, là, l'alcool n'est pas une excuse. Mais il y en a malheureusement que quand ils boivent de l'alcool, ils deviennent agressifs. Fait que là, tu dansais sur la piste de danse, tu t'accrochais, il y en avait deux qui disaient « Va y dehors, on va régler ça », puis ils se battaient. Mais c'était deux gars. J'ai jamais vu dans mon temps, puis OK, je suis allé veiller de 15 à 25 ans régulièrement à chaque semaine. Là, quand je dis régulièrement, c'est deux, trois fois par semaine. Je vous l'ai dit, mon 15 à 25 ans, t'es rock'n'roll. En 10 ans de bar, en plus de 2000 sorties dans les bars, j'ai jamais vu un gars être violent envers une fille. J'ai jamais vu un gars frapper une fille. J'ai jamais vu un gars maltraiter une fille. J'ai déjà vu des comportements de colons parce que c'était ça dans mon temps de jeunesse, là, de gars qui passent au bar puis qui pognent le cul d'une fille. Oui. Ça n'avait pas plus de sens.
Puis il y en a encore aujourd'hui des
c'est
comportements.
C'est ça. Ça
n'avait
pas plus de sens. Mais j'ai jamais vu une violence verbale et physique aussi forte envers la gente féminine. Ça n'a aucun sens.
Puis, genre, tu sais, si c'était arrivé, mettons que c'était arrivé dans ton temps, est-ce que tout le monde aurait regardé ce gars-là sans rien faire?
Ben non, le monde y aurait sauté dessus, puis on y aurait sacré une volée. C'est ça que je comprends pas. Pis c'est drôle que tu m'amènes là, parce que je vais faire une parenthèse décoquée. L'autre jour, j'arbitre, il y a des catégories mixtes où les filles jouent avec les gars. Il y a un gars qui plante une fille dans la bande. Son équipe a même pas sauté sur le gars.
Rien.
Il disait, voyons, tabarouette, c'est quasiment moi en tant qu'arbitre qui avait le goût de slugger le gars. Ben non, mais tu peux pas être violent envers les femmes. Ça n'a pas de sens. Excellent texto qui vient de rentrer. En tant que femme, ça fait peur. On ne sait plus à quel homme on a autour de nous. Non, mon frère, mon chum, mon père, tu sais, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vrai que ça fait peur. Moi, ça me fait peur personnellement pour vous, les femmes, parce que je me dis, coudon, on est donc bien rendu dans une société maladive, une société violente envers les femmes.
C'est pas acceptable. Dans ma tête, c'était comme C'est comme la base, là, comme quand t'es un homme qui se respecte, puis je rentre pas dans les stéréotypes.
Non,
là,
non, non.
Mais quand t'es un homme dans le respect, que ce soit ta blonde, que ce soit ta soeur, que ce soit ta mère, que ce soit n'importe quelle femme que tu rencontres, t'as un devoir de la traiter avec respect.
Ben
là.
Oui. Hey, puis t'sais, honnêtement, t'sais, jamais je vais promouvoir la violence, mais excellent texto qui est rentré. Hey, ça arrivait pas parce que dans le temps, c'est un homme à chaîne même, on le ramassait en gang. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'était ça. C'est que si un homme osait avoir ce comportement-là envers une femme, je vais le dire de même, on était 10 loups à y sauter dessus. Il comprenait.
Ouais, c'était la chose. Encore une fois, je veux pas promouvoir la violence, là, mais ce gars-là, il a mis KO une femme qui, comme tu as dit, pèsait probablement autour de 100-120 livres. Il mérite de se faire brasser un peu après.
Exactement. Le chum Matt qui écrit « Ça m'est déjà arrivé qu'une fille commence à me pousser et vouloir se battre avec moi dans un bar. Je comprenais pas d'où ça sortait. Je me suis retiré quelques minutes au lieu de la confronter puis j'ai bien fini ma soirée. » Ben voilà. Puis là, cela dit, c'est un bel exemple, je trouve, que Mathieu nous écrit parce que, oui, il va y avoir des femmes aussi qui peuvent être problématiques dans leur comportement. Ouais. Mais attends, comme, là, on se logue pas une femme, là.
Puis,
on fait juste se retirer de la situation, puis c'est réglé.
Puis encore pire, dans cette vidéo, là, c'est que la fille, était pas violente envers
non,
le
non,
gars.
Non,
là,
il a juste tossé le doigt pour lui dire « Hey, arrête de me pointer de main. »
Puis lui, il a réagi en la naquant.
J'espère que la police va le retrouver. J'espère qu'il pourra pas sortir rapidement de prison.
Qu'on aille une vraie peine?
Ouais, une vraie peine, là. Peut-être une vraie peine. Puis qu'on le mettra pas, parce que ce qui m'a déçu des services carcéraux pour avoir parlé avec des gardiens de prison au printemps passé, c'est que les batteurs et les abuseurs de femmes, à cette heure, on les met tous dans la même wing. Puis là, ben ça fait en sorte qu'ils se craignent, hein? Ah oui, l'écœurante. Ah
c'est pas
oui,
de notre faute, c'est de sa faute.
C'est pas de notre faute, nous autres, les hommes, t'as laissé ça. Il mériterait de se retrouver dans une wing, tu sais, de gars qui protègent les femmes, là.
Ouais. Là, ça
une petite heure ou deux, là.
Après ça, tu retransféreras, là.
Comme dans le temps. Après ça, tu prendras de leur transférer, ils vont passer par l'infirmerie pour commencer, là, si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mériterait ça, ces gars-là, hein, passer ça. Mais non, ils mettent tout ensemble. Fait que là, ils se craignent tout. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils ressortent de prison.
Ils font la même affaire. Ben oui.
Fait que là, ils font la même affaire. Fait que quoi, vous pensez que la violence conjugale, la violence faite envers les femmes, souvent, il y a des récidivistes. On leur permet de se craquer entre eux autres. On termine cette conversation avec plusieurs textos. Si quelqu'un faisait ça à ma fille, j'aurais une bonne raison d'aller en prison. Ouais, ça, faut pas le dire. Moi, j'ai toujours dit, si jamais il arrive quelque chose à mes enfants, je vais laisser la justice faire son cours. Comme ça, vous comprendrez que je vais pouvoir plaider la folie passagère. Qu'est-ce qu'il dit OK, non. Après ça, ici. Par contre, Lewis le fou, lui, a fait la morale sur ses propos. Une vidéo circule présentement sur cela. Chapeau à lui. OK, parlant de Méduson, on revient à l'affaire Médusa. Tant mieux. Puis, c'est ça. Alors, voilà. Je suis sidéré. Je suis sidéré par la violence des hommes envers les femmes. Faut faire quelque chose. Puis la meilleure façon qu'on peut faire, c'est de sensibiliser la plus jeune génération à ne pas reproduire ces comportements-là. On a-tu perdu une génération?
Je pense pas. Non.
Je souhaite que non. Il y a certains individus qui ne seront pas récupérables. Mais là, travailler en prévention pour faire en sorte que nos enfants, nos adultes de demain, nos jeunes adultes, là, agissent de façon différente qu'un Médusa et que cet homme large de Gatineau à 250 livres qui s'est permis de narcoter une femme. Wow! Quel champion! Quelques manchettes, Mathias, avant qu'on accueille Gabriel Hardy, député pour Montmorency-Charlevoix du Parti conservateur du Canada. On va entre autres parler avec lui de cette semaine cruciale de négociation entre le Canada et les États-Unis avant l'imposition d'autres droits de douane et également d'un rassemblement auquel il a participé hier, un rassemblement jeunesse Génération Ambition, c'est à l'Université Laval.
Une alerte à la bombe a mené à l'évacuation d'une partie du centre-ville aujourd'hui du côté d'Halifax. Une importante opération policière qui aurait mené à l'arrestation de celui qui est à l'origine de la menace. On a très peu de détails pour l'instant, mais l'évacuation qui a été ordonnée pour toute la population, travailleurs et piétons d'un secteur important du centre-ville. Le Parti québécois a annoncé aujourd'hui la candidature du maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau, pour l'élection provinciale à venir du côté de Lobinière-Frontenac. Il sera donc leur candidat. Ce qu'on nous dit, c'est que le maire conserve pour l'instant son poste jusqu'au début des élections. Par la suite, on va demander un congé sans ça. Il n'y a rien qui l'oblige à démissionner. Si jamais il est élu Il démissionnera à ce moment-là. Et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, il retournera comme maire de Saint-Apollinaire. Le PQ, qui est présentement deuxième dans, justement, Lotbinière, le Parti conservateur qui est premier selon les projections de QC 125 à 33 avec Renaud Labrec comme candidat. Le PQ à 25 et la CAQ à 23 qui annoncera d'ailleurs son candidat dans Lotbinière demain, en même temps d'annoncer son candidat dans Beauce-Nord.
Ça va être une très belle lutte dans Lotbinière-Frontenac parce qu'honnêtement, le maire de Saint-Apollinaire est très, très, très aimé dans sa communauté. À preuve, il a été élu par acclamation. Donc, vraiment, le PQ vient de trouver un bon candidat pour chauffer Renaud Labrec. Hâte de voir le candidat de la CAQ demain. Mais ça va être une circonscription baromètre à surveiller pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches.
Et je termine avec un puissant séisme de 7,4 qui a eu lieu en Colombie, dans plusieurs grandes villes, dans la capitale Bogota. C'est au total 18 morts au moins qu'on a compté jusqu'à maintenant. De nombreux blessés, de nombreux dommages au bâtiment aussi. Le bilan qui devrait continuer à s'alourdir au cours de la journée.
Très triste de vous lire par courriel au 418-971-101. On vous dit que la seule chose de régler le problème des hommes violents, c'est d'utiliser aussi de la violence. On va essayer de ne pas se rendre là en termes de société, mais chose certaine, notre prévention à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Mais je pense, Mathias, que c'est surtout notre répression qui ne fonctionne pas. Les peines sont trop clémentes. Comme Jean, il met ensemble dans une wing, ils sont là à se crinquer contre la gente féminine. Notre système de répression pour protéger nos femmes, puis je vais même mettre nos enfants là-dedans, n'est pas assez sévère au Canada, au Québec, puis il va falloir accélérer le pas là-dedans, puis donner des vraies conséquences. Quand on veut qu'un enfant change de comportement, on donne une vraie conséquence en tant que parent, bien là, il faut que le système de justice s'attaque à la violence faite à travers les femmes de façon beaucoup plus féroce qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Courte pause à Boulevard 101, Gabriel Hardy, député de Montmorency-Charlevoix pour le Parti conservateur du Canada, est avec nous en studio par la suite.
On en jase, 14h, on en jase.
Midi 39 minutes exactement, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 à l'émission On en jase. Je vous rappelle, la météo, c'est de la pluie. Pour les deux prochains jours, mettez de la pluie en après-midi. Ça va être un risque d'un orage cet après-midi. Quelques averses qui vont débuter en après-midi également. Ça va cesser après minuit, donc attendez-vous à de la pluie. Et par la suite, le soleil revient pour demain matin. Par contre, il y aura encore des averses en après-midi demain. Aujourd'hui, c'est 26 degrés. Demain, 25 degrés. Retour du plein soleil mercredi avec 24 degrés. J'adore vous lire au 418-971-1021. Continuez à interagir. Vous êtes plusieurs à être en accord avec moi, c'est-à-dire que les répressions, les punitions, les peines d'emprisonnement pour les hommes violents ne sont pas assez élevées et que c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Parce que, je le répète, on va avoir la loi Gaby-Renault qui va être mise en place, qui est une très bonne loi, qui va permettre justement aux femmes d'aller voir l'historique de leur nouveau conjoint. Parce que, regardons ça, ils viennent de péter une coche. Ouais, regardons ça, il en a pété une deuxième. Regardons ça, je suis pas trop sûr de son passé avec qu'est-ce qu'il me raconte. Puis être capable de voir que c'est un homme violent. Mais, d'un autre côté, si on n'est pas assez fort en répression, bien, ça ne fonctionnera pas. Également, il faut travailler en prévention avec nos jeunes gars, à l'école, à la maison, dans les sports. Moi, je coach au hockey. Quand j'entends des commentaires dans la chambre de hockey de gars là, envers les femmes, là, je les reprends régulièrement. Parce que des fois, on te boit, en matière, tu as vu que ça, une petite affaire de hockey, là, une petite chambre de hockey. Bon, on se permet des petits commentaires. Ah, je te dis, elle, cette fille-là, puis rah, 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 rah. Parce que finalement, la fille, tout ce qu'elle a fait, ça a dit t'es pas assez beau, t'es pas assez fin pour moi. Je passe à un autre appel. Donc, faut pas hésiter à les rabrouer. Excellent texto qui vient d'arriver. Ma fille a vécu de la violence conjugale et ça me touche énormément. J'arrive de l'Ontario et le discours des jeunes hommes, même plus vieux envers les femmes, me déçoit beaucoup. Et dans un cas, ça vient du père. La justice doit être plus sévère dans les peines. Les agresseurs sexuels de filles, des femmes, ont, des femmes les agresseurs sexuels ont souvent une petite tape sur les doigts. En plus, la fille, la femme doit s'humilier à raconter et revivre son horrible histoire devant le juge. Les crimes ne sont pas assez punis. Je suis tellement d'accord avec ça parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est très difficile pour les femmes de venir justement s'asseoir devant le tribunal et raconter à nouveau son expérience horrible en souhaitant justement se faire entendre et surtout se faire croire. Avant de passer à Gabriel Hardy qui va être finalement au téléphone en déplacement aujourd'hui, je vous parle des Capitales de Québec. Les Capitales de Québec, c'est quoi? C'est 3 victoires cette fin de semaine contre les Jackals du New Jersey, qui était une très bonne, qui est une bonne formation également dans la Ligue Frontière. Les Capitales sont maintenant rendus à un dossier de 52 victoires et 25 revers en tête de la division Nord. Ils vont affronter dès mardi Broxton au Stade Canac. Billets disponibles sur capital.ca, mais je vous le dis, ça s'envole encore très rapidement. Et n'oubliez pas, jeudi, le 20 août, c'est le match Boulevard 102-1 au Capital de Québec. Les billets sont également disponibles sur capital.ca. Venez nous voir en grand nombre. Tous les animateurs de la station vont être présents. Et bon, on dit que ça me fait toujours plaisir de vous jaser. Encore hier, Mathieu, j'ai arbitré des hockey. Un auditeur qui vient me voir après, il dit « Hey, j'aime ça ce que tu fais à la radio. »« Hey, parfait, merci d'être à l'écoute. On jase 2-3 minutes. » J'adore jaser avec
super
les gens.
Super sympathique. Ça te fait sourire.
C'est ben oui, en plus, ben oui. En plus, j'avais donné une punition dans le match.
Ah, puis il était de bonne humeur quand
T'imagines
même.
T'imagines qu'il était de bonne humeur
C'est pas Marceau qui aurait pogné une pénalité au deck puis qui aurait été de bonne humeur après le match.
Hein? Parle-moi-en pas. J'arrive un matin, Marceau, que c'est que je recommence à arbitrer. Puis là, l'arbitre m'a donné telle punition. Mais dis, j'espère pas vivre ça à chaque matin hors d'onde. J'espère que ça arrivera pas à chaque matin. On va parler avec un des députés préférés, puis j'ai pas de gêne à le dire, de nos auditeurs, auditrices, des gens de la grande région de Québec et de Charlevoix, de la grande capitale nationale, parce qu'à chaque fois qu'on le reçoit en ondes, et là, c'est au téléphone, on reçoit des textos qui disent « Hey, on va être donc Gabardi, va être avec vous autres en entrevue, je l'aime tellement, il est tellement pertinent. » Alors, Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada de la circonscription Montmorency, Charlevoix est avec nous au bout du fil. Salut Gab, comment vas-tu?
Hey, ça va vous autres?
Ça va super bien. Gab, parle-moi de l'événement hier avec Génération Ambition qui s'est déroulé à l'Université Laval. C'était quoi le but de cet événement-là? Puis je sais que tu étais bien accompagné avec Étienne-Alexandre Beauregard et Nicolas Gagnon.
Ben écoute, ça a été génial. Là. Dans le fond, on m'a invité pour parler de la jeunesse. Puis quand on m'a invité, peut-être que les gens le savent pas, je vous l'annonce aujourd'hui, j'ai été nommé ministre du cabinet fantôme pour la jeunesse partout au pays. Alors, je trouvais que l'événement était parfait parce que ça me permettait d'annoncer à tout le monde que finalement, je vais avoir le dossier à m'occuper de notre jeunesse, des propositions qui sont faites, de trouver des avenues, des solutions finalement aux problèmes que les jeunes rencontrent. Puis en même temps, ben, j'essayais d'inspirer ou du moins j'avais cet objectif-là de un peu raconter ma carrière, mon passé, pourquoi je me suis impliqué en politique, puis de donner le goût aux jeunes de toutes sortes de manières de s'intéresser à la démocratie, à la politique. Puis j'ai intitulé ma présentation « Démocratiser la démocratie » parce que je crois que les institutions, malheureusement, dans les dernières années, se sont éloignées peut-être un petit peu trop de la population, les gens. Tu sais, combien de personnes nous disent « Bah, moi, je suis plus intéressé à la politique » ou « Bon, ça me tente pas, c'est plate. » Puis de toute façon, ils nous écoutent jamais. Ben, c'est ce qui donne des résultats tristes avec des taux de participation à 65 % puis avec une jeunesse qui ne vote plus. Alors, je voulais vraiment hier raconter cette perception-là, comment ça m'a amené, comment j'ai été frappé par ce monde politique-là, notamment dans la pandémie, quand j'ai pris la parole pour les gyms à ce moment-là, et comment on est capable tous ensemble de faire changer les choses. Puis, je termine ma longue réponse en disant, quand j'ai regardé les statistiques, 45 ans et moins au pays, on représente 43 % de la population.
Oh, c'est
55
beaucoup.
Ans et plus, 43 % de la population. Mais c'est les 55 ans et plus qui votent à grande majorité.
En effet.
Alors, c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas un poids. C'est juste qu'on a besoin de s'intéresser à la politique parce que les jeunes, c'est ceux qui vont vivre les décisions que prennent les gouvernements à tous les niveaux le plus longtemps. Donc, s'ils sont interpellés par la politique puis ils s'y intéressent un peu, ben, ils vont être capables de justement peser dans l'équation puis de permettre au Parlement de parler pour tout le monde et non pas juste pour ceux qui votent. Et statistiquement parlant, ben, c'est les 55 ans et plus qui votent plus que la jeunesse.
Deux questions pour toi, Gabardi. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Qu'est-ce que les jeunes s'attendent de nos politiciens?
Ben là, c'est sûr que le coût de la vie, c'est quelque chose qui frappe beaucoup présentement. Tu sais, je pense qu'on doit revenir à la fameuse promesse intrinsèque qu'on a dans notre société, que quand tu travailles fort, en théorie, tu es capable d'avoir un avenir qui est respectable. J'ai l'impression que nos jeunes sont très découragés.
Ah, c'est clair. Hey, gars, moi, je vais juste te donner mon exemple. À 46 ans, une maison, tu sais, on veut permettre à nos de voyager un peu avec nos enfants, leur permettre de faire tous les sports qu'ils veulent. Ben, tu sais, j'ai un autre job à part celle de la radio parce que sinon, je serais pas capable d'offrir tout ça. Fait que c'est décourageant, 46 ans, je vais te l'avouer.
Ben, les jeunes, tu sais, les 17, 18, même 15, 16, 17, ils commencent à réaliser que leurs parents travaillent en tabarnouche. Puis pour arriver à un niveau de vie, puis quand même, ils se disent, wow, attends, là, mon père ou ma mère travaillent autant, les deux travaillent autant, puis finalement, on doit quand même se serrer la ceinture.
Ben, c'est ça, c'est un niveau de vie modeste, là, à tout le moins. Là, je veux dire, moi, j'ai mon petit bungalow, puis je vais te dire une affaire, je remercie ma blonde de cuisiner autant parce qu'on en mange des restes en tabarouette, là.
Ben oui, puis tu sais, quand tu regardes les statistiques, on vit dans un moment où est-ce que la jeunesse frappe quand même un des murs historiques. C'est 40 % des jeunes de 20 à 34 ans vivent encore chez leurs parents. Alors, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, wow, OK, est-ce que cette promesse-là de va à l'école, étudie, fais une carrière, puis inquiète-toi pas, tu sais, tu vas être capable de commencer une famille. Tu sais, hier, Étienne Alexandre en parlait, justement. Les jeunes veulent avoir des enfants, ils veulent commencer une famille, mais ce projet-là est delay, hein, tu sais, il est tassé à droite parce que ils sont pas capables d'avoir leur maison ou ils doivent rester aux études plus longtemps pour être capables éventuellement d'avoir une carrière. Tu sais, avant, ce qui prenait un bac aujourd'hui prend une maîtrise, ce qui prend une maîtrise prend un doctorat. Tu sais, on a comme tout tassé à droite, mais ce temps-là que tu es aux études à t'endetter, ben tu le passes pas à bâtir ta famille. Fait que, tu sais, ça a un impact sur notre nation, ça a un impact sur le nombre d'enfants qu'on a par famille, ça a un impact sur beaucoup de choses et le coût de la vie a un impact sur quand est-ce que je vais me lancer à avoir une famille. Donc, qu'est-ce que nos jeunes veulent? Ils veulent juste être capables d'avoir accès, eux aussi, à bâtir leur famille, puis à commencer leur vie, puis à avoir une maison. Ça, c'est un des trucs. La deuxième chose que je répondrai à ta question, c'est la responsabilité des politiciens, des gens en politique. Comme vous le savez, j'aime dire que moi, je suis un gars en politique, d'intéresser les gens à ce qui se passe dans nos institutions. Et c'est pas en disant, ben c'est à vous autres de vous renseigner. Ouais, mais si c'est poche puis c'est plate, là, c'est normal que le monde s'y intéresse pas. Et si le monde s'y intéresse pas puis ils sortent de moins en moins voter, on est en train de glisser, on est en train de perdre une richesse ici qu'on a, qui est la démocratie. Et je pense que c'est une responsabilité qui est aux élus aussi de rendre la politique intéressante. Comme, puis je disais hier en conférence, le parallèle avec le golf. Le golf, c'est un vieux sport qui a été longtemps vu comme un sport de c'est plate à regarder. Puis à un moment donné, whoop, on a eu un Tiger Woods qui est débarqué. On a eu des grosses entreprises Nike qui ont commencé à sponsoriser. Ils en ont fait un spectacle. C'est devenu cool. Pourquoi? Parce que le sport s'est pris en main et a changé la vision qu'on avait de ce sport-là. La politique, je crois, et c'est ce que j'espère faire, doit se démocratiser, doit se rendre intéressante. Dans la dernière année, ça semble marcher avec ce que je fais sur les réseaux sociaux.
Ben, ça marche très bien, soit dit en passant, parce qu'on a des auditeurs qui nous disent « Hey, j'ai découvert Gabardier avec ses vidéos, puis quand, j'étais pas un pro-conservateur, mais je suis très intéressé par tout ce qu'il dit. » Puis là, ça va être positif pour toi, Gabriel, parce qu'à tel point que, oups, je suis en train de virer conservateur.
Les gens sont plus conservateurs qu'ils pensent pour la plupart. Dans le fond, les valeurs conservatrices, c'est assez simple. Hein, t'sais. Le conservatisme, c'est de conserver avec fierté ce qu'on a. Notre nature, notre histoire, notre culture, notre nation, notre langue, de s'enraciner profondément avec les choses qui ont passé les époques pour être capable de s'améliorer petit à petit, sans tout changer, sans partir dans des idéologies, pour être capable de grandir en s'adaptant tranquillement avec ce qui se passe. Et c'est ça le conservatisme. Le conservatisme, c'est une fierté de son passé pour bien planifier son futur. C'est pas une idéologie qui dit « Ouais, mais moi, avec ma nouvelle idée, je vais tout révolutionner, tout changer. » Je lisais en conférence hier, si ta fourchette existe depuis 2000 ans, il y a des fortes chances qu'elle existe pour les 2000 prochaines années. Il y a ça dans le conservatisme de dire « Pourquoi on changerait des choses qui fonctionnent? » Et c'est pas de l'immobilisme, c'est du conservatisme. C'est d'être fier de son passé puis de changer tranquillement, d'améliorer pour bâtir un meilleur futur.
Et en parlant des conservateurs, Gabriel, vous êtes présentement en campagne dans Chicoutimi-le-Fjord pour tenter de garder la circonscription élection partielle. Pierre Poilievre, votre chef, qui est présent dans la circonscription aujourd'hui. C'est très, très serré. Là. Le Bloc à 32 % les libéraux à 31 %, le Parti conservateur à 29 % selon le dernier sondage. On est dans la marge d'erreur. Qu'est-ce que t'entends sur le terrain? Est-ce que les gens la lune de miel avec Mark Carney semble terminée. C'est quoi des enjeux locaux? Est-ce qu'il y a des frustrations auprès de la population?
Énormément de frustrations. C'est la première, c'est d'avoir parti des élections en plein été. Tu sais, quand je parle, tu sais, quand je suis allé présenter à Génération hier là, aux jeunes, c'est ça que j'ai dit, tu sais. La politique, présentement, là, est faite, puis c'est un concours de popularité, là, on s'entend, là, est faite sur ceux qui votent. Et les libéraux ont pris le pari de se dire, les jeunes vont être en rentrée scolaire, les cégepiens, les parents vont en avoir plein leurs shorts avec les enfants qui retournent à l'école, l'université repart, les jeunes n'iront pas voter. Et on le sait que les conservateurs, on est ceux qui attirent le vote des 18-45. Donc, ils se sont dit, nous, on va aller acheter le vote. Puis, ils font pas campagne, nous, on les voit pas sur le terrain. Fait que, tu sais, moi, quand je fais du porte-à-porte avec Régis, parce que je suis souvent là-bas, aller l'aider, puis, tu sais, je suis dans ma circonscription, puis j'étais au Saguenay, ben, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le fond, je suis Coutimi-Fjord. Les gens nous disent, libéraux, c'est terminé. Là, la poudre aux yeux, là, on est tanné. Là, il faut qu'on passe un autre appel. Ils ne font rien pour nous. Puis la preuve, tu sais, dans des petites choses, hein, Mark Carney s'est déplacé à Chicoutimi-le-Fjord pour quelques heures et débarqué, a répondu à 4 questions, est allé ramasser des bleuets, puis s'est en retourné. Le candidat n'était même pas avec lui en conférence de presse. Alors, on a un candidat fantôme. On a un premier ministre qui débarque, ramasser des bleuets, puis s'en retourne. C'est ça le respect des libéraux pour Chicoutimi-le-Fjord. Et les gens nous en parlent. L'autre chose, c'est tous les enjeux locaux. Ils veulent un parti qui va leur redonner le pouvoir, un parti qui est le parti des régions, un parti qui s'intéresse à leur réalité. Et ça, c'est le Parti conservateur. On a défendu énormément au cours des années, avec Richard Martel qui était là, des enjeux locaux. Et un, notamment, le bar rayé, que c'est un enjeu qui touche ma circonscription aussi. Je suis allé là-bas en parler, accommodation 21, on a une belle discussion. Mais il y a tellement d'enjeux régionaux que les libéraux ne comprennent pas parce qu'ils sont pas présents dans les régions. Et c'est ça que les gens sont tannés. Ils ont le goût d'un parti qui, un, peut leur redonner le pouvoir. Bien, pour redonner le pouvoir, en premier, il faut être au pouvoir ou avoir le potentiel, la capacité d'être au pouvoir. Puis, bien, ça, c'est libéraux ou conservateurs. Alors, redonner le pouvoir aux régions passe par un parti qui peut être au pouvoir, et ça, c'est le Parti conservateur.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada de la circonscription Montmorency-Charlevoix. Gabriel, 2 dernières questions avant de te laisser partir. Es-tu fâché après Richard Martel d'avoir accepté ce poste-là au Sénat parce que vous risquez quand même de perdre un siège?
Oui, les gens l'ont souligné comme ça. De l'autre côté, je crois qu'on gagne un conservateur au Sénat. Richard est un vrai conservateur. C'est quelqu'un qui défend les idées conservatrices et on n'a pas de conservateur au Sénat, malheureusement. Tu sais, dans les dernières années, on en a perdu beaucoup au Sénat, des conservateurs. Vous savez que c'est nommé par le premier ministre. Puis, je veux dire, Trudeau a nommé tellement de conservateurs.
Ben, il était là pendant 10 ans, donc c'est clair.
Ben oui, puis ils ont nommé beaucoup de la gauche, là, de la grosse, grosse gauche. Fait que le ballon, quand une loi arrive au
Sénat... Tu es en train de me dire que Justin Trudeau était woke, toi? Voyons donc.
Non, c'est ça. Tout ça pour dire qu'ils ont nommé énormément de sénateurs au fil des années et le contrepoids n'existe plus. Quand tu arrives au Sénat, il n'y a pas de conservateurs qui sont là ou à peu près. On a une belle équipe qui s'est serrée, mais on ne pèse pas assez dans la balance. Alors pour moi, Richard a fait un choix qui n'est pas d'abandonner son monde, c'est d'aller les défendre autrement et d'aller les défendre dans une autre institution du Parlement d'Ottawa qui est aussi très importante. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens de Chicoutimi-le-Fjord. C'est pas un abandon, c'est un travail autre, mais ça veut pas dire que le conservatisme et les conservateurs ne doivent pas garder la région, parce qu'au contraire, si Régis passe et Richard est au Sénat, on se ramasse avec une double victoire. On va avoir plus de conservateurs ou une mentalité conservatrice plus présente au Sénat, et en plus, on va avoir un député solide à Chicoutimi-le-Fjord qui va être capable de continuer à défendre les idées puis défendre les intérêts de nos régions. Alors ça, c'est vraiment une grande victoire si on réussit à faire ça. Et c'est ce côté-là, évidemment, le côté médiatique. C'est bon, Richard a abandonné. Mais Richard n'a pas abandonné. Il va juste travailler autrement. Puis il n'aura pas à vivre le cycle électoral. Il va être là jusqu'à 75 ans. Donc c'est un gain à long terme dans le Sénat qui, pour moi, je trouve que c'est très positif.
Dernière question, Gabardi, pour toi. Semaine cruciale de négociation entre le Canada et les États-Unis. Votre chef a dit tantôt en point de presse, justement, en direct du Saguenay, que le Parti conservateur du Canada ne veut plus de concessions de la part de Mark Carney. Mais si on ne fait pas de concessions, comment on peut faire pour s'entendre avec Donald Trump?
Ben là, même son enfant, on s'entend pas. Depuis le début, Mark Carney semble avoir utilisé la ligne du violon. Il lance énormément de phrases et énormément de discours, énormément de belles pensées idéologiques et de poudre aux yeux en disant « je vais vous livrer des résultats », mais fois après fois, les résultats n'arrivent pas. Fait que là, tu dis « bon, t'as fait une concession à gauche, t'as pas plus de résultats. T'as fait une concession à droite, t'as pas plus de résultats. » Tu sais, à un moment donné, ça, ce que moi je trouve qui est l'idéologie libérale, qui sont jamais capables de se rendre compte que leur idée, quand ils marchent pas, faudrait peut-être qu'ils changent de trac. Sont tout le temps dans « non, on va continuer à aller dans le même sens, malgré que les résultats sont pas au rendez-vous. Puis un jour, peut-être, ça va arriver. » Mais non, mais ça, c'est le réalisme. À un moment donné, il faut que tu viennes à la réalité que ça ne fonctionne pas, votre plan. C'est-à-dire, on n'a jamais été dans une aussi mauvaise position. Le monde entier fait face aux tarifs américains. Il y a seulement le Canada, qui est le seul pays du G20 en récession. On est-tu capable, à un moment donné, c'est-à-dire, le plan que vous utilisez ne fonctionne pas? Arrêtez les concessions, arrêtez de vendre notre pays pour faire en sorte qu'il y ait juste les cheveux oranges qui soient contents, là. Puis on peut-tu défendre nos industries justement avec une honneur, avec une fierté?
Et comment vous le feriez, le Parti conservateur, si vous seriez à la tête des négociations, justement?
Il faut utiliser nos ressources, il faut utiliser notre richesse, puis arrêter de la donner l'autre bord. Il faut m'emmener et dire, hey, si tu veux des concessions, il faut que t'en fasses toi aussi. Si tu veux notre potasse, tu veux nos ressources, tu veux tout ce qui avantage ton industrie, puis tu coupes la nôtre. Puis après ça, tu trouves là, ils ont retiré le vin des tablettes, on va mettre 50% de tarif. Il y a toujours eu une bonne raison. M'emmener, c'est parce qu'on était des dealers de drogue, là, puis que là, la drogue rentre aux États-Unis comme ça se peut pas. C'était la première raison de nous sacrer une volée, puis de dire qu'on était épouvantable. Après ça, il y en a trouvé un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à chaque fois, ben on fait le dos rond, on s'excuse. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on deal avec force. On dise, OK, ben, si tu mets un tarif là-dessus, nous, on coupe ça.
Donc, on joue l'horloge jusqu'aux élections de mi-mandat?
On joue l'horloge, excuse-moi, vas-y, j'ai pas compris.
Ouais, on joue l'horloge jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis en restant ferme dans nos positions?
Ben là, je veux dire, c'est déjà une chose qu'on devrait commencer à faire, chose qui n'est pas arrivée depuis le début que Mark Carney est en poste. Il s'est pas tenu sur rien. Il a donné une concession sur tout. Fait que là, j'imagine que jusqu'à date, si le résultat de donner des concessions, c'est que ça marche pas, j'essaierais peut-être autre chose. Tu sais, je veux dire, tout le monde négocie avec les États-Unis mieux que nous autres. Fait que peut-être que notre formule fonctionne pas. Le Mexique a eu des meilleurs deals que nous autres. Peut-être que notre formule fonctionne pas. Donc déjà, il faudrait qu'il commence à se lever, à se tenir debout, à tenir son point. Puis après ça, on verrait qu'est-ce qui se passe de cette méthode-là. Je dis pas que Donald Trump est facile à dealer avec, mais je dis qu'à un moment donné, si ta formule fonctionne pas, c'est un autre. Et yeah. Chose qu'il a pas faite, donc... Donc voilà, moi je pense qu'on doit dealer avec force selon toutes les ressources qu'on a puis la puissance qu'on a, puis on doit aider notre économie, notamment en arrêtant d'être pas compétitif, en taxant puis en imposant sans arrêt nos business puis nos industries, puis en étant une place que l'administration est tellement rendue pesante que les entreprises veulent plus rester chez nous. Et si on est capable d'aider nos business puis d'être solide dans la négociation, je pense que notre position va être plus forte.
Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada de la circonscription Montmorency, Charlevoix, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordais à l'émission Nageurs ce midi.
Ben là, merci de m'avoir invité. Désolé de ne pas avoir été en studio.
Hey, y'a pas de trop. On se reprend une autre fois. Je comprends que les horaires de politiciens, c'est pas toujours facile.
Ouais, je cours pas mal, mais j'aurais vraiment aimé être avec vous.
On se reprend une autre fois, Gabriel. Salut.
Merci, salut.
Salut, Gabriel Hardy, qui est député pour le Parti conservateur, circonscription Montmorency, Charlevoix, de la circulation, Mathias?
Oui, tour rapide, 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, très, très difficile actuellement. Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve, en raison de travaux, c'est difficile aussi. Charest, direction est, à hauteur de Henri IV, ça remonte jusqu'à Duplessis pour le moment. C'est au rouge, et Laurentienne, quand même un peu d'attente pour rentrer sur Capitale, quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, c'est par texto.
Quand on dit qu'un politicien, un député peut être plus populaire que son parti, je pense qu'on a la preuve avec Gabriel Hardy. Le Parti conservateur du Canada n'est pas très populaire au Québec. Ici, dans la région de Québec, a perdu un gros comté avec Beauport-Limoilou, mais les commentaires qu'on reçoit par texto sont très positifs. Ceci dit, je suis très heureux de savoir que le Parti conservateur veut jouer l'horloge jusqu'aux élections de mi-mandat. Ben, ça veut dire si on n'a pas de deal d'ici là, je m'attends à ce qu'il critique pas trop Mark Carney. Non, mais c'est vrai. Tu sais, puis il a raison, Gabriel Hardy, quand il dit je trouve que Carney s'est pas assez tenu debout, puis il a fait plusieurs concessions. Je suis très d'accord avec lui. Moi, tu sais, je le dis là, au micro de Boulevard, des fois, je suis un séparatiste à prendre, mais en même temps, présentement, je suis un bon patriote canadien, puis je veux qu'on tienne debout, je veux qu'on démontre notre force. D'un autre côté, par contre, dans le discours du Parti conservateur, on parle pas beaucoup de la diversification des marchés, ce que Mark Carney fait très bien à l'heure actuelle avec l'Europe, avec la Chine. N'en déplaise à des gens comme moi qui font des affaires avec la Chine, qui partagent pas du tout nos valeurs, ça vient me chercher personnellement, mais il y a quand même des bons coups faits là de la part de Mark Carney, mais je suis d'accord avec lui, on ne se tient pas assez face à la menace américaine. Courte pause à Boulevard 101, par la suite on revient avec un tour d'actualité puis on va vous poser la question. Ça vous énerve-tu de voir Bruno Marchand heureux de même avec Monique en Italie? Avec Monique qui fait un montage vidéo de ses vacances princières en Italie, un montage digne des plus grands reportages télé. Vous devez peut-être comprendre dans mon ton, je me situe où. Après la pause, on en jase. Juste en deux heures. Émission d'en jase sur Boulevard 102.1, ton émission d'actualité. Mais également de discussion, je vais dire, Mathias, parce qu'on discute de sujets qui vous intéressent, de sujets qui font la polémique, sont problématiques à nos yeux et à vos yeux, comme ce Julien Médusa, qui a tenu des propos misogynes, qui a pratiquement encouragé la culture du viol sur un yacht en Floride avec des amis streamers qui se trouvaient bien drôles en étant bien sous. Sensibilisez vos jeunes garçons. Société québécoise, c'est une société égalitaire. La femme a autant de droits que l'homme et on traite les femmes avec bienveillance et respect ici au Québec. Comme ça que ça se passe. Même s'il y a de plus en plus de misogynie parmi nos streamers, dites à vos enfants qu'ils ne prennent pas cette tangente-là. Puis intéressez-la à la politique. Tellement intéressant ce que Gabardy vient de dire. Même nombre de personnes qui ont 55 ans et plus, c'est-à-dire 43%, que de gens qui ont entre 16 et 45 ans. Mais c'est les 55 ans et plus qui votent le plus. Voyez, jeunes, sortez voter. Faites-vous entendre par les politiciens une fois pour tout. Nous, à Boulevard 102, on tente justement de vous donner le micro puis de parler de vos priorités. Pas pour rien que j'ai Mathieu Turcotte avec moi qui a 22 ans.
C'est vrai. Hein? Je vais voter aux prochaines élections aussi.
Oui, je suis très content de toi, Mathias. 418-971-101 pour réagir en studio avec nous. BLVD 102.1, c'est notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. La meilleure façon de nous écouter partout où vous allez, au Québec ou au pays. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
La police fédérale qui a annoncé aujourd'hui dépôt d'accusation contre un Montréalais de 51 ans en raison de menaces de mort proférées à l'égard du premier ministre du Canada, Mark Carney. Selon la GRC, c'est Marc Poirier qui aurait tenu des propos menaçants dans un courriel envoyé à un sénateur notamment, mais ses propos menaçants-là ciblaient le premier ministre du Canada, Mark Carney. Il a comparu en justice aujourd'hui par visioconférence au palais de justice de Montréal. Marc Poirier n'aurait aucun antécédent judiciaire, puis on ignore ses motivations quant à donner des menaces de mort envers le premier ministre canadien.
Oui, on est dans une démocratie, une belle démocratie. Seulement 13% des pays dans le monde présentement ont un régime démocrate. Donc, quand je vais aller voter parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la planète qui ont cette option-là. Mais ceci dit, une démocratie, ça veut dire qu'on fait entendre nos points de vue sur différents médias sociaux, dans les médias traditionnels, via notre droit de vote. On ne menace pas les gens de mort, là. On n'est quand même pas dans un régime comme ça au Canada.
Un puissant séisme de 7.4 a eu lieu en Colombie dans plusieurs grandes villes, dont la capitale Bogota. C'est présentement, puis le bilan a pas mal augmenté au cours des dernières minutes. C'est maintenant 69 personnes qui sont mortes lors de ce tremblement de terre-là, mais le bilan qui devrait fortement augmenté au cours des prochaines heures. On parle d'une vingtaine de structures qui se sont complètement effondrées. Des personnes qui sont présentement prises sous les décombres de ces mêmes structures-là. On devrait avoir encore plus de détails au cours des prochaines minutes. Le Parti québécois qui a présenté aujourd'hui un candidat dans le Binière-Frontenac, c'est le maire de Saint-Apollinaire, Jonathan Moreau, qui va se présenter pour le PQ. Il va conserver ses fonctions de maire jusqu'à l'élection. par la suite, durant la campagne, il va prendre un congé sans solde. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben on comprend qu'il va revenir comme maire. Puis si ça fonctionne, ben il va devenir député. Le Parti québécois, qui est présentement deuxième dans la circonscription de d'Aubinière, est à 25 % Les premiers sont les conservateurs à 33 % avec Renaud Labrecque comme candidat. La CAQ qui suit troisième à 23. La CAQ qui va d'ailleurs présenter son candidat dans l'Aubinière demain. A présenté son candidat dans Beauce-Nord un peu plus tôt, Philippe Simard, qui est le fils de l'ancien directeur du club de golf de Bellechasse. C'est un homme qui est originaire de Beauceville et qui habite présentement à Sainte-Marie. Mais du côté de Beauce-Nord, normalement, ça devrait être une victoire assez facile du Parti conservateur.
Pour Lobinière-Frontenac, ça va être une belle course entre Renaud Labrecque, bien connu dans les médias, et également le maire de Saint-Apollinaire, qui est très apprécié par la population. Alors, ça va être une belle circonscription baromètre lorsqu'on va faire cette émission spéciale-là des élections le 5 octobre prochain. C'est une des circonscriptions qu'on va vérifier, à savoir, coudonc, PCQ, vas-tu vraiment rentrer avec une bonne délégation ou non? Lobinière-Frontenac va nous donner une bonne indication. Du côté de Beauce-Nord, ben écoutez, c'est Patricia Drouin, la candidate du PCQ. C'est l'ancienne mairesse de Vallée-Jonction. Elle est très connue dans la communauté. Le PCQ a le vent dans les voiles en Beauce. Ce serait très étonnant, malgré le fait que c'est un candidat local de la CAQ, Philippe Simard, que la CAQ réussisse à renverser la vapeur.
Une alerte à la bombe un peu plus tôt du côté d'Halifax a mené à l'évacuation d'une partie du centre-ville, une importante opération policière qui aurait mené à l'arrestation de celui qui est à l'origine de la menace. On a très peu de détails pour l'instant, mais l'évacuation qui a été ordonnée pour toute la population, travailleurs et piétons d'un secteur important du centre-ville. Un individu est présentement recherché par la police pour avoir asséné un violent coup de poing à une femme en plein visage samedi soir à Gatineau. L'identité de l'homme qui est toujours inconnue. Dans une vidéo virale, on peut voir l'homme avoir une altercation avec une femme qu'il a décidé d'envoyer au sol avec un coup très violent. Et lorsque je parle de coup très violent, eh bien, je vous laisse entendre l'extrait audio de ce même coup-là.
Le pouf! Ce bruit de sourd-là, dites-vous que c'est le poing d'un homme musclé de 250 livres sur une jeune femme d'à peu près 120 livres en prison et sa presse.
L'événement qui est arrivé vers 4 heures du matin à la sortie des bars dans le vieux hall à Gatineau. La femme qui a dû être transportée à l'hôpital pour y recevoir des soins. Une semaine avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de Donald Trump, ça s'en vient à grands pas. Le gouvernement de Mark Carney qui a annoncé aujourd'hui subventionner le transport de l'acier canadien à travers les différentes provinces. On parle de remise de 50 % pour justement éponger certains coûts du transport ferroviaire jusqu'à concurrence de 100 millions de dollars pour les 12 prochains mois. Lorsque le ministre McKinnon, qui est responsable justement du transport, s'est fait questionner à savoir cette nouvelle mesure-là, est-ce que ça laisse présager qu'on ne va pas avoir d'entente sur l'acier avec les États-Unis? On n'a pas vraiment répondu. On n'a pas répondu à la question. On a évité la question. Préciser que le ministre responsable...
On va dire oui, nous, ici, à Boulevard 102.
Pour l'instant, ça laisse présager rien de
c'est
bon.
C'est correct que M. McKinnon ne se prononce pas parce qu'on est dans négociation, mais sachez, tenez-le pour dit, avec cette entente-là, on le sait qu'il n'y en aura pas de deal.
Puis le ministre responsable des négociations avec les États-Unis, Dominique Leblanc, qui va d'ailleurs se rendre à Washington cette semaine pour une troisième fois en autant de semaines. Et pour terminer avec les négociations, justement, la première ministre Christine Fréchette qui a ouvert la porte à revoir les bouteilles de vin américain sur les tablettes de la SAQ, mais à une seule condition. On veut des gains concrets dans certains secteurs ciblés pour le Québec, notamment le secteur forestier, celui d'aluminium ou encore le secteur manufacturier.
Avez-vous de l'argent pour vous payer des belles vacances de 2 semaines en Italie, des vacances de rockstar où vous allez aller sur des yachts dans les plus beaux coins en Italie, puis vous allez boire du vin bien en masse? Ben moi, c'est plate, j'en ai pas cet argent-là. Je dois même avoir un deuxième travail pour subvenir à mes besoins de base. Mais dites-vous que votre mère de Québec-là, écoutez cette belle musique et je vais vous décrire cette vidéo virale sur le compte Instagram de Monique Néron, sa conjointe. Ah, la belle musique. Ah, on mange des pâtes. Monique danse. Monique saute à la mer. Ah, on est sur le yacht. Bruno avec du vin décontracté. Ah, on fait de la plongée. Petit bisou. Ah, le coucher de soleil magnifique. Bruno danse.
Ah, on est dans des places paradisiaques. Petite coupe de vin. On danse. Ah, bouteille de champagne sur le yacht. Piscine. Plongée à nouveau. Plage. Ah, une autre petite coupe de vin, sourire. Ah, c'est magnifique, le paysage. Wow! Et ça se termine avec Monique qui a tellement fait d'achats qu'elle ne sait plus comment faire ses bagages. Ah ben, la vie des gens riches et célèbres, Mathias, avec notre argent. Le salaire de Bruno Marchand, c'est nos taxes. C'est nos taxes municipales, le salaire de Bruno Marchand. Puis Bruno Marchand, c'est un quêteux de taxes. Il en met partout. Et là, il arrive via sa conjointe Monique Néron et il nous montre ses vacances de rêve. Pendant que Saint-Roch regorge d'itinérance, pendant que la pauvreté a gagné Québec comme jamais, pendant que la classe moyenne est rendue une classe pauvre parce qu'on est surtaxé au Québec, ben Bruno, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un gros « fuck you » puis il dit « regardez ma belle vie que moi, ouais, je mène
non,
aux
Jeff.
Frais des contribuables. » Texto qui est rentré. « Un vrai bouffon de salon, cet homme, est un grand profiteur qui s'amuse sur notre dos. Un homme qui ne sait aucunement gérer. Une petite copie de Trudeau, tellement. Je ne suis plus capable de l'entendre ni de le voir avec son sourire forcé de profiteur. J'en écris encore plus, je me retiens. Je demeure sur Laurier, je n'en peux plus de ses folies. » C'est fou les travaux pour son tramway au lieu de réparer nos rues et nos trottoirs tout brisés. Vous en pensez quoi? 418-971-1021. Mathias, je sais que t'es dans une opinion inverse. Ben je te laisse la parole.
T'exagères, tu vois, Jeff. Puis je vais peut-être me faire lancer des tomates. De un, c'est pas sur ses réseaux sociaux. Moi, en partant, ça fait quand même une différence. C'est sa conjointe qui est quand même une personnalité publique, qui décide de partager ça. C'est pas Bruno Marchand qui a mis ça dans la gueule de ses électeurs.
Bruno a juste à dire à sa conjointe, « Ma chérie, je suis maire de Québec, tu peux pas le faire. »
Mais en même temps, ça, je suis en accord avec toi. Mais en même temps, je veux quand même qu'on fasse la différence, que c'est pas Bruno Marchand qui a publié ça par lui-même. Ensuite, je comprends qu'il y a une fonction de maire, mais il peut-tu bien profiter de ses vacances? C'est plate à dire. Je comprends là que, oui, c'est des belles vacances, puis qu'il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés puis qui ne devraient pas mettre ça de l'avant. Mais à un moment, c'est quand même sa vie à lui. S'il veut partir en vacances puis en profiter, je pense qu'on peut lui laisser droit puis pas en lui en vouloir éternellement parce qu'on n'est pas d'accord avec le tramway ou on n'est pas d'accord avec les pistes cyclables, on n'est pas d'accord avec si. Ça reste un être humain qui profite de ses vacances, ça, quand même.
Plusieurs réactions par texto ici. On a, il ne devrait pas montrer ses voyages, mais autrement, il a gagné son argent. Il peut bien faire ce qu'il veut. Doom nous écrit, il peut faire ce qu'il veut de son salaire et de ses vacances. Par contre, il passe les dépenses en voyage d'affaires. Ouais, là, non, ça ne sera pas le cas. David nous écrit, shit. Il a fêté son élection au Château-Frontenac. Êtes-vous surpris? Autre texto, 100% avec toi, Mathias. Je te soutiens, donc tu vois, c'est pas pire. Hey, il faut oublier que c'est super important de prendre le transport en commun pour sauver la planète. Il a dû se rendre en Italie en vélo. Le monde qui chiale sont juste des jaloux. Charles-Étienne, je pense que je viens de trouver un super sujet sur lequel nous ne serons pas en accord et pas du tout même. Je suis loin d'être riche, mais je me ramasse présentement mon argent pour un voyage en France au printemps qui, je l'espère, sera magique comme celui du maire. Le maire a le droit à des vacances comme tout le monde.
Yes. Parfait, Charles-Étienne, on
est
en accord. Jeff,
je m'excuse, je t'aime bien, mais là, tu participes à la haine contre les politiciens à Québec, il a le droit à sa vie. Les gens sont en majorité de ton côté, Mathias, il a le droit à ses vacances. Fred qui écrit 100% avec Mathias. C'est moi qui mange une volée, Mathias, face à nos auditeurs qu'on se fait écrire 418-971-101, j'adore. Moi, mon point, c'est ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'après ça, je le crois plus quand il dit qu'il va vouloir prendre soin du monde. Il est trop dans un monde parallèle de riches, dans ses cocktails. Il est trop avec une haute classe de la société. Je le crois plus qu'il va prendre soin du monde.
Mais tu sais, je pense que... Comment je pourrais dire ça? Je pense que tu peux faire les deux ensemble. Cachera pas, là. Le maire gagne un très bon salaire, puis c'est public. Puis effectivement, je suis d'accord avec toi que souvent en politique, on voit beaucoup de politiciens qui montent un peu sur... au-dessus de leurs affaires puis qui sont plus connectés avec leur population. Puis pour plusieurs personnes, ils vont dire ça de Bruno Marchand.
Ouais.
Mais je veux dire, à un moment, c'est pas parce que la personne... Tu sais, on le sait que les politiciens gagnent de l'argent. Moi, c'est pas parce que je vois qu'ils profitent de ça que je me dis, à cause de ça, il est absolument déconnecté de sa population.
Il va falloir qu'il me prouve qu'il est plus déconnecté.
Tu sais, dans le sens, tu peux... Puis là, c'est pas nécessairement le cas du maire Marchand en particulier, mais tu peux vivre une vie, je pense, quand même aisée, profiter de ton argent, puis aller en voyage, puis malgré ça, être conscient que certaines personnes vivent plus dans la misère. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre automatiquement.
Je suis d'accord avec toi, mais dans ces dernières politiques, je le trouve très déconnecté de ce que les gens veulent. Donc,
mais encore une fois, même là, tu sais, mettons, si on prend des personnes qui ont plus... qui sont plus en besoin. Quand même, il faut le souligner, Bruno Marchand a fait en sorte que Québec soit l'une des meilleures villes en termes de construction de logements sociaux. Tu sais, je veux dire, il a quand même montré à quelques reprises qu'il faisait de l'itinérance une priorité, moins que plusieurs auraient aimé, puis il n'a pas respecté ça.
Il nous a rentré une politique des foyers pour sauver la planète. Tu y crois-tu vraiment?
Ben, exactement.
Il nous rentre un paquet de pistes cyclables à travers la gorge. Tu y crois-tu vraiment? C'est ça que je dis, c'est qu'il fonctionne seulement sous son idéologie et ces vacances-là me prouvent à quel point il s'élève toujours au-dessus des gens dans son discours.
Mais en même temps, puis tu sais, ça je suis d'accord que je comprends pourquoi ça peut créer un malaise de mettre autant le bien de notre planète de l'avant puis après ça de faire une dépense carbone là, pour reprendre les termes environnementaux quand même assez faramineuses pour aller d'autres bords de la rive. Mais d'un certain sens... C'est possible faire un effort environnemental puis y croire quand même, puis malheureusement, dire « je veux quand même pouvoir profiter du reste du monde » puis il n'y a rien d'autre qui s'offre à nous que des avions pour le moment pour le faire. Il n'y a pas de... Tu sais, dans le sens, tu vas-tu t'empêcher de vivre l'Europe, de vivre l'Asie, de te permettre des voyages quand tu as les moyens de le faire en disant « je veux pas prendre l'avion » Tu sais, tu as moyen de faire des gestes dans ta vie... De faire des gestes qui sont bons pour l'environnement, puis malheureusement, une fois par année, ben, tu te permets un trip en avion.
Ouais, c'est juste que quand tu te permets de faire toujours la morale à tes concitoyens, c'est là que je trouve que tu manques de conséquences. Plusieurs textes, encore une fois, sont rentrés. Jeff serait mieux à Radio X. C'est vrai, Colin. Si j'avais les auditeurs de Radio X, ils me texteraient tous.
Ils seraient tous d'accord avec toi.
Je suis bon puis je suis fin. Continuez à texter le contraire de ce que je dis. Colin, que j'aime ça, vous le savez. J'ai une excellente ouverture d'esprit. Bon, quelqu'un qui me dit bon job, c'est lui qui dit aucun problème si l'argent pour s'il a l'argent pour voyager, mais qu'il ne vienne pas nous parler de sauver la planète. Il n'a jamais été collecté avec la population. Donc, et voilà. Puis quelqu'un qui prend justement la défense de ton point de vue, Mathias, en disant « Hey, Jeff, t'exagères en disant qu'il prend ses vacances sur notre dos parce qu'il est payé avec nos taxes. Il a quand même bien le droit à un salaire. » Continuez de réagir. 418-971-1021. Toujours intéressant de débattre avec vous. Merci, Mathias, pour ton point de vue. Mathias, y a-t-il une liste d'attente pour les garderies?
Il y en a une très grosse. Très grosse.
Hein, c'est
il y en a une très bonne.
Bon, fait qu'on manque de services de garde, hein?
Ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent qui sont au courant.
Oui, puis ça reste toujours un casse-tête pour les parents lorsque justement arrive la fameuse période de rentrée, donc après les vacances estivales, de dire ou quand je sors d'un congé de maternité, écoute, on va te faire une place en garderie. Ouais, je suis correct, j'ai tout. Bien, au Québec, on pourrait fermer environ 1100 garderies en milieu familial parce que, Caroline, ils n'ont pas obtenu la reconnaissance gouvernementale. Fait que là, vous allez me dire, « Ouais, mais Jeff, parfait, ça. On fait justement des évaluations serrées. Puis ces gens-là prennent pas soin de nos enfants, fait qu'ils méritent pas d'avoir de garderie. » Non, c'est des délais administratifs. Fait que le 1er septembre, qui s'en vient à grands pas, pourrait avoir 1100 garderies qui ferment au Québec.
1100.
Ça, c'est des garderies en milieu familial qui ont à peu près 6 enfants. Fait que ça veut dire, fait le calcul, là, c'est 6600 enfants qui, au 1er septembre, les parents, qui eux autres, quand ils sont partis en vacances, se sont dit, il n'y a pas de trouble, j'ai ma garderie, n'auront plus.
Ils vont d'abord se trouver un nouveau milieu de garde quand il n'y en a déjà pas.
Exactement. Mais ça, pas parce que ces garderies-là sont pas bonnes. Pas parce que ces garderies-là font pas la job. Puis pas parce que ces garderies-là, exemple, n'ont pas payé leur cotisation ou quoi que ce soit. Non, juste à cause de délais administratifs du gouvernement. Puis on va parler avec Geneviève Cossette, propriétaire d'une garderie en milieu familial à Québec qui vit cette situation-là après la pause à Boulevard 101 à l'émission On en jase. OK, oui, on jase à l'émission On en jase, 13h31. Merci d'être à l'écoute. Wow, les textos ont explosé quand on a parlé des vacances du maire. J'en lis quelques-uns des derniers. Mathias, t'as gagné ce débat-là, je peux pas croire. Dernier petit message pour toi, Mathias. As-tu déjà été en Italie? Moi, j'ai fait le tour de l'Italie nord au sud. C'était en 2018, 3 semaines. Ça m'a coûté 10 000. Et je n'ai pas voyagé en gros bateau avec du gros champagne. Oui, j'ai fait un très beau voyage. Mais dis-toi qu'il a dû faire un voyage d'au moins 20 000, certainement.
Ben, ça devait pas te donner, ça, c'est sûr. Là. On s'entend là-dessus.
C'est Monique ou Bruno qui a le plus d'argent? Je ne sais pas.
Hey, ça, c'est une bonne question.
Bon. David, qui nous écrit, l'Antarctique est en train de fondre à cause de Bruno Marchand. On va se le dire, il fait ce qu'il veut avec son argent, c'est pas celui des contribuables. Pierre-Luc qui nous écrit, les donneurs de leçons sur le climat qui sont au final les plus pollueurs de la société, ça me dégoûte. Même si je pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, il prouve dans ses agissements qu'il s'en fout de l'environnement. Merci! Ah, que ça soulevait les passions. Je le savais. Je le savais que ça soulèverait les passions. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir que vous participez autant à l'émission. Avant la pause, je te disais, pour moi, ça fait aucun sens pendant que la liste pour entrer dans un CPE doit être d'à peu près 30-40 000 enfants au Québec. Ben, à cause de lenteur administrative, le gouvernement dit au 1er septembre, on va fermer 1100 garderies en milieu familial. Là, vous n'avez pas la berlue, vous avez bien compris, 1100, ce qui correspond à environ 6600 enfants.
Oui, c'est en 2022 que le gouvernement caquiste a déposé le projet de loi 1. Ce que ce dernier dit, c'est qu'il exige que les garderies en milieu familial obtiennent une reconnaissance gouvernementale d'ici la rentrée 2026, ce qui arrive dès le 1er septembre, là, dans quelques semaines à peine. Si jamais ces différentes garderies-là n'ont pas cette reconnaissance gouvernementale, il y a deux choix qui s'offrent à eux. Soit fermer leurs portes ou réduire leur nombre d'enfants de 6 enfants à 2 enfants. Donc, ce qu'on nous dit du côté du ministère actuellement, c'est que la nouvelle réglementation va toucher le quotidien d'environ 5000 familles qui devront se trouver un nouveau milieu de garde pour leurs enfants.
Et au bout du ligne, on a Geneviève Cossette qui est justement... propriétaire d'une garderie en milieu familial qui risque de fermer. Madame Cossette, merci beaucoup de participer à l'émission On en jase.
Bienvenue. Merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Madame Cossette, pourquoi vous êtes rendue dans cette situation-là? C'est à cause de délais administratifs?
Oui. En fait, mes démarches ont débuté au mois de janvier pour que je finisse par remettre un dossier complet à l'animé. Depuis ce temps-là, en fait, rien n'a avancé. On est encore à la vérification des antécédents judiciaires. La visite dans les locaux n'a pas eu lieu. La rencontre avec moi et mon conjoint n'a pas eu lieu non plus. Puis là, on se ramasse à 3 semaines du délai final et on me dit que ça va s'étirer encore et encore. Okay. Ça, c'est le cas de la région de Québec. Et je suis pas la seule.
Oui, mais c'est ça, c'est complètement fou parce que là, vous avez tout fait ce que vous aviez en votre pouvoir. Premièrement, là, vérifier les antécédents judiciaires. Là. J'ai déjà été dans des conseils d'administration. Là. C'est facile, là. On a le petit formulaire, on envoie ça à la police puis c'est réglé là, très, très, très rapidement. Là. Mais là, pourquoi on vous donne pas un délai additionnel? Parce que vous, vos papiers sont remplis. Fait que c'est pas de votre faute, c'est la faute du gouvernement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là-dessus, j'ai rien à redire. Vous avez bien expliqué la situation.
Pourquoi il y avait ces nouvelles exigences-là? C'était pour s'assurer justement que les garderies en milieu familial soient adéquates et également sécuritaires pour nos enfants?
Probablement. C'est sûr que c'est ça qui est louable au-dessus de tout ça. J'ai rien contre, mais c'est ça. On veut le faire, on remet tous nos papiers pour le faire et finalement, on se ramasse qu'il n'y a rien qui avance.
Est-ce qu'on vous avait averti à un moment ou à un autre que les délais pour justement, à la suite de la réception de votre dossier, allaient être aussi longs que ça?
En début mai, quand j'ai été déportée, on m'a dit que les délais étaient de 2 à 5 semaines. Rendu en début juillet, quand je me suis réinformée à nouveau, on m'a dit que les absences d'empêchement, ce qui veut dire les vérifications judiciaires, ça allait prendre maintenant 2 à 3 mois et qu'après ça, ils avaient encore 120 jours de plus supplémentaires pour venir visiter la garderie et rencontrer moi et mon conjoint pour faire une entrevue.
Complètement épouvantable ce qui se passe pour vous. Là, vous pourriez accueillir seulement 2 enfants, mais comment faites pour sélectionner 2 enfants sur 6? Faites un tirage au sort. Qu'est-ce qui se passe là?
Je ne sais pas encore. Je veux même pas m'imaginer me ramasser à avoir à faire ce choix-là. J'espère que la volonté politique va porter ses fruits, puis qu'on puisse rester ouverte juste le temps qu'ils finissent leur vérification. Oui. Je ne demande même pas de passe-droit. Je veux juste qu'on me laisse terminer ce que j'ai commencé en allant leur porter mes papiers. Je le fais depuis déjà 13 ans, avoir une garderie en milieu familial. Je n'ai que des parents heureux de cette situation. Bien, pas la situation actuelle, mais d'avoir ma garderie, en fait.
Mm-hmm.
Puis là, on fait ça. On se ramasse avec des délais administratifs qui s'étirent pour continuer à faire le même travail dans le même endroit avec les mêmes enfants.
La réaction des parents des enfants qui fréquentent votre garderie à l'heure actuelle, ils doivent être complètement découragés et stressés parce qu'il n'y a rien de plus stressant que perdre sa place.
Ils sont très anxieux, mais honnêtement, ils me soutiennent énormément. J'ai des parents en ce moment qui font des appels aux députés, qui se présentent sur les lieux des bureaux coordonnateurs pour faire avancer les choses, qui ont fait la publication sur Facebook pour me donner des louanges au bout du compte. Honnêtement, l'appui des parents et des anciens parents de ma garderie en ce moment dépasse tout ce que je pouvais imaginer.
On a vu dans
Merci à eux.
Ah, certainement. On a vu dans plusieurs dossiers, justement, les sujets avec le gouvernement que des sorties publiques dans les médias portaient fruit. Souhaitez-vous avoir une réponse rapidement du gouvernement qui vous dise « OK, c'est beau, continuez à opérer, puis on va faire les vérifications, puis après ça, vous allez avoir votre nouvelle certification, vous allez pouvoir continuer à opérer? »
Ça serait le meilleur dénouement que je pourrais imaginer. Je l'espère, mais... c'est pas moi qui décide.
Madame Cossette, on va faire suivre justement vos recommandations au ministère de la Famille. Soyez-en assurés. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Ça va nous faire plaisir de faire une mise à jour en nombre.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Geneviève Cossette, propriétaire d'une garderie en milieu familial. 13 ans d'expérience. Que des parents heureux. Elle dépose son dossier parce qu'il y a des nouvelles façons de faire, des nouvelles procédures en main. Ça va prendre de 2 à 4 semaines. Puis soudainement, comme ça, quand elle fait un suivi elle-même, en juillet, parce que sinon, ça aurait été à peu près le 30 août qu'elle aurait su qu'elle ferme le 1er septembre.
Oui, c'est ça, elle aurait jamais eu
connaissant
le
gouvernement. Non, là, bon, il dit, ah non, c'est délai-là de 2 à 4 semaines. Non, puis là, ben là, les antécédents judiciaires, c'est long. Puis là, ben, on a passé une bande sur le terrain, on a vérifié. Fait que... au 1er septembre, c'est pas grave, vous avez vu ça sans fait, vous allez passer à 2. Scratcheuse en 4.
Ah, c'est un peu ridicule, là, surtout quand il y a un besoin urgent comme ça. Puis, du côté du gouvernement, on a répondu là, au Journal de Québec. On a en quelque sorte dit « c'est pas de notre responsabilité, donc on va pas faire d'ajustement ». Ça, c'est la version du gouvernement pour le moment. Je comprends, tu sais, pour mettre les deux côtés de la médaille, je comprends le principe que c'est quand même depuis 2022 mm-hmm. que ce projet de loi-là est en place. Fait qu'il y a eu 4 ans là, pour mettre des choses en place. Sauf qu'à partir du moment où que le gouvernement regarde la situation actuellement, mm-hmm. je comprends que ça fait 4 ans, mais que voit que autant de demandes sont en attente de traitement de dossier, oui. puis que c'est à cause des délais administratifs qui n'ont pas leur réponse, pourquoi le gouvernement ne fait pas juste dire hey, « regarde, on voit que les délais administratifs traînent de la patte, que beaucoup trop de garderies ferment. Fait qu'on reste sur notre décision, mais on donne un délai supplémentaire de 6 mois. Comme ça, on s'assure que les garderies conformes vont pas fermer leurs portes pour rien.
Imagine histoire d'horreur par texto. Je suis un des parents de sa garderie. J'ai appelé le ministère de la Famille. On m'a dit de trouver une nouvelle garderie pour un poupon. C'est une moyenne de 8 mois à trouver. On m'a dit que l'erreur venait du bureau du coordonnateur. Et... eux me disent que c'est la ville, le bureau du coordonnateur dit que c'est la ville de Québec qui n'envoie pas les plaidoyers.
Tout le monde j'attends se renvoie retour à balle.
Fait que tout le monde se renvoie à balle, mais pendant ce temps-là, cette jeune mère de famille, hey, ça, là, c'est un stress immense. Je l'ai vécu. On a eu notre garderie pour Elliot. Je pense qu'Elliot avait 9 ou 10 mois. T'sais, ma blonde, on retourne au travail la semaine d'après, là, la mère des enfants. Puis, je veux dire, le mois plus tard, le stress... qui t'envahit. Oui. Fait que là, imagine, t'as une garderie, tu l'as trouvée, ton poupon vient de faire des... parce qu'il y a toujours des périodes là, où l'enfant va à la garderie pour s'acclimater à son nouveau... à son nouveau milieu de vie. Donc, ton enfant, tu fais ça. Toi, tu dis, parfait, je suis de retour au travail. Patauk. Par des délais administratifs du gouvernement, tu repars dans le processus. Ça, c'est du salaire que les parents vont perdre.
Puis, pour de vrai, c'est pas compliqué. Je dis que c'est pas compliqué, c'est pas aussi simple que ça non plus, mais on pourrait facilement dire on retarde la date de l'application. On l'avait faite pour des clôtures de piscine, par exemple.
Ben oui.
La loi avait été mise en place depuis des années. On savait que c'était en 2025, depuis des années. On est arrivé à la date. On s'est rendu compte que les délais étaient trop longs dans les différentes compagnies de clôture. Le gouvernement a dit quoi? Ben, on va retarder d'un an. Qu'on fasse la même chose dans ce dossier-là.
Exactement. On l'a fait aussi pour le nouveau code du bâtiment en matière de construction.
Ce ne serait pas une première.
Donc, c'est la même chose qu'on doit faire. Justement, la mère de famille nous écrit hey, « Écoute, on ne peut pas perdre un salaire. Là. C'est juste impossible. » On en parle depuis tantôt du coût de la vie qui a augmenté puis des familles moyennes qui ont des difficultés. Et il y a un autre texto qui est rentré en disant « Coudonc, il n'y a aucune instance gouvernementale qui n'a pas des problèmes de délai. » C'est vrai, puis c'est ça qui est décourageant à tonnes d'impôts et de taxes qu'on paye. Courte pause. Mathias, le Red Bull va rentrer dans nos McDonald's.
C'est ce qui s'en vient.
Et vous en pensez quoi? 418-971-101. Puis on va aussi faire une petite parenthèse sur un enfant trop turbulent qui empêche un voyage.
Ah, c'est particulier.
Qui empêche un avion de décoller. Et mon Dieu, quand on dit que les enfants sont rendus des enfants rois, on en jase. Ça suit immédiatement. Hey, on est en train de parler du coût de la vie en dehors des ondes. Non, mais fais-tu mal, ce coût de la vie-là, quand même, hein? Avec l'augmentation de l'essence. On a une belle entrevue avec Yvan Clich, du Cerium. Ça se retrouve, on l'a eu ça ce matin, ça se retrouve sur le BLVD.fm. Donc, évidemment, c'est très, très, très difficile. Le texto qui est rentré, hey, on coupe des fonctionnaires, c'est sûr que ça a des répercussions sur les services. En effet, pour ça que le gouvernement doit dire « Hey, écoutez-moi bien, on va le prolonger, ce délai-là, ça n'a pas de sens de mettre des enfants à la rue comme ça. » Il n'y a pas de doute là-dessus. Texto qui est rentré aussi, puis ça nous amène à notre prochain sujet, Mathias. Lol, on vient d'interdire dans les dépanneurs pour les kids les boissons énergisantes, mais là, let's go, dans les McDonald's, la roue politique au Québec est carrée. Mais pas ronde. Quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Puis là, on parle que ça n'aura sûrement pas lieu au Québec, mais juste ailleurs au Canada.
Parce que c'est dans un article du Journal de Québec. Moi, j'ai vu rien qui pointait du doigt que ça n'allait pas avoir lieu au Québec. Là. Moi, les publications que j'ai vues, ça disait des boissons fruitées avec du Red Bull comme ingrédient pour les McDonald's partout au Canada.
Exactement.
C'est ça que ça dit pour le moment.
Moi, je me positionne là-dessus. On interdit les boissons énergisantes aux moins de 16 ans qui sont en vente dans nos dépanneurs, nos épiceries. Ben, c'est correct que McDonald's ait des boissons énergisantes aussi. C'est juste qu'il ne faut pas qu'ils vendent aux moins de 16 ans.
Ben, exact. J'ai eu la même réaction.
Non, mais c'est vrai. On va appliquer la loi au McDonald's, puis on va faire de la surveillance, puis ils auront des amendes s'ils ne le respectent pas. Mais c'est parce qu'on ne peut pas enlever les boissons énergisantes des McDo. Parce qu'on a décidé que les moins de 16 ans ne buvaient pas ici au Québec, parce qu'ils vont en rester dans les dépanneurs. Fait que ça devient une concurrence déloyale si on ne permet pas au McDo aussi. Faut juste qu'ils soient assujettis à la même loi et aux mêmes vérifications.
Ça reste une entreprise privée. Si elle veut vendre de la Red Bull ou des boissons dans ce cas-ci, là, ça va être
c'est son droit. Une
boisson aux fruits du dragon avec une Red Bull dedans. Là. Si McDo veut mettre ça en vente, ben as-tu le droit de le faire?
Ben oui!
Pour la majorité, on est tous à la même place pour l'interdiction aux moins de 16 ans des boissons énergisantes.
Clairement. Puis même, t'sais, vous le savez comment, sur les ondes, j'ai décrié le shit show du Parti conservateur du Québec là-dessus. Là.
Mais à un moment, commencer à s'ingérer dans ce que les entreprises privées peuvent vendre ou pas. Ils vendent quand même du café, des fois 6 cafés aux mêmes personnes qui reviennent à... Non, mais tu sais, à un moment donné...
Quel bon exemple!
Faut être honnête. Il y a du monde qui prennent 6 cafés McDo par jour. C'est-tu vraiment mieux que prendre une boisson énergisante avec de la Red Bull au McDo par jour. Fait que deux poids, deux mesures. Laissons les entreprises privées gérer la situation par eux-mêmes. Là.
C'est clair. Hey, un vol vers Toronto annulé parce qu'un enfant refusait de boucler sa ceinture de sécurité. Quand j'ai vu ça passer en fin de semaine, j'en revenais pas. C'est un vol de Porter Airlines qui a été annulé. Qui devait relier l'aéroport international de Victoria en Colombie-Britannique à l'aéroport international de Pearson à Toronto. Dans le fond, Mathias, puis dis-moi si je me trompe, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un enfant dans l'avion, il ne voulait pas s'attacher, il se cachait en dessous du banc parce qu'il avait peur. Quand on le remettait sur le banc et qu'on essayait de l'attacher, il se glissait rapidement avant qu'on réussisse à serrer la ceinture. Puis là, ça a pris une heure de temps, ce va-et-vient-là, qui fait en sorte que l'avion n'a jamais décollé parce que selon les registres, on était rendu à une heure trop tard pour décoller. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. L'avion était censé décoller à 10h30 du soir. Puis là, l'avion part. Là. On s'en va sur la piste de décollage. Mais là, le jeune ne voulait pas s'attacher. Puis là, il se levait, il se cachait en dessous du banc, etc., etc. À 11h30, une heure plus tard, ce qui semble très long, là, je tiens à dire, pour la compagnie d'aviation, on a décidé de dire « Garde, c'est assez. On ramène l'avion, justement, à l'aérogare. Puis on va débarquer le jeune puis sa famille. » T'sais, dans le sens, le jeune n'est pas gérable, il ne veut pas s'attacher. Mais on a tellement attendu longtemps que rendu à 11h30, on a regardé ça, puis le temps de débarquer le jeune et tout, l'aéroport fermait à minuit et demi.
Ouais.
Donc on s'est dit, ben, on n'a pas le temps de décoller l'avion, votre vol est retardé à demain matin.
Trois manquements selon moi là-dedans, Mathias, puis écrivez-nous également au 418-971-1021. Premièrement, les parents. À un moment donné, le jeune, assis-toi et fais-toi attacher. Dans un, c'est la première chose. À un moment donné, tu mets ton poing à terre puis tu exiges à ton enfant. La deuxième chose, c'est si tu vois que tu n'es pas capable de contrôler ton enfant, veux-tu bien sacrer ton camp de l'avion rapidement? Là?
Ah, aussi.
Puis pas passer justement pour le zoin-zoin dans l'avion qui n'est pas capable de contrôler son enfant. Et la troisième chose, c'est les agents de bord. Ils le savent, eux autres, là. Ça, là, le carnet, le livre, le délai, tout le kit. Fait qu'à un moment donné, après une demi-heure de chicane avec l'enfant, ben, faut que tu dises aux parents, hey, désolé, l'avion doit décoller, puis on vous demande de quitter.
Ben, faut que tu sois conscient de tes délais, là. Ça, c'est indéniable, là. Moi, tu sais, là, c'est à 11h30. À 11h, tu regardes ta montre, hey, si on retourne pas tout de suite, on va pas pouvoir décoller. Excusez-nous, c'est terminé, là.
Exactement. Donc, tu sais, c'est là la problématique qu'eux, parce que tu peux pas faire payer l'ensemble de ta clientèle parce qu'un enfant veut pas s'attacher. Puis là, Camille qui nous écrit « Hey, c'est peut-être un enfant avec un TSA, etc. » Je suis entièrement d'accord avec toi, Camille, puis je sympathise énormément avec les parents. Mais à un moment donné, si t'es pas capable de faire en sorte qu'il soit sécuritaire dans l'avion, ben toi, en tant que parent, il faut que tu dises « OK, c'est beau, j'ai pas pris le bon moyen de transport. Je quitte, je vais aller reparler à mon enfant plus loin. Je demanderai si je peux être replacé sur un autre vol, puis on va le réessayer. » Puis je suis convaincu que la compagnie d'avion l'aurait fait, soit dit en passant. Et il y a les agents de bord qui, là, ben, à un moment donné, n'ont pas fait leur job.
Mais tu prends tes responsabilités en main, autant du côté de la compagnie, autant du côté des parents. C'est triste à dire, puis ces parents-là avaient probablement... avaient probablement prévu de belles vacances puis un beau voyage avec leur enfant. Quand ton enfant n'est pas gérable, c'est ta responsabilité. Tu sors de l'avion. C'est aussi simple que ça.
Exactement. Donc, vois-tu, en plus, la compagnie paye les frais d'hôtel annulé ou pour la nuit. Sûrement que ça a coûté cher à la compagnie parce que là, c'est la compagnie elle-même qui annule le voyage.
Puis plus loin que ça, imagine-toi, Jeff, dans un avion, t'as hâte de partir, des délais de une heure complète dans un avion parce qu'un enfant veut pas s'asseoir, puis finalement, tu te fais dire « Hey, tu pars demain
matin. »
Oui,
imagine la frustration. Hein. Oh non, je peux te garantir que mon père ou ma mère m'auraient contrôlé, pas la même époque, les effets du « gentle parenting ». Hey, moi aussi, je peux même pas m'imaginer comment mon père m'aurait parlé si j'avais fait ça. Puis en m'emmenant à cette époque-là, mon père a utilisé la force. Je peux dire une affaire, je serais resté sur le banc pour m'en rattacher.
Parce qu'il n'est pas nécessairement...
Serrer à ceinture, c'est pas recommandé, ouais. On s'entend. Mais c'est effectivement ce qui serait arrivé. Puis plein d'autres textos qui sont rentrés pour dire « Hey, Jeff, c'est bien dit. En effet, l'enfant peut avoir une certaine problématique. Mais à un moment donné, c'est aux parents de prendre une décision en fonction de la problématique
exact.
De mon
exact.
Enfant. Donc, si cet enfant-là vit avec le trouble du spectre de l'autisme, ben quand... OK, c'est bon, on va prendre le bord, puis on va aller faire de la pédagogie ailleurs, puis après après ça, on essayera de reprendre un autre.
La responsabilité n'est pas aux jeunes. C'est, de ce qu'on comprend, c'était un jeune apeuré de prendre l'avion.
Exactement, c'est une responsabilité parentale et également des agents de bord. C'est déjà tout pour l'émission On en jase. On se parle demain à midi. Le retour de Gravel suit à l'instant même avec Denis, Véro et Audrey. Marceau le soir avec Marc Bellemare à 18h. Puis on fait la grande roue avec Marceau le matin, demain matin, 6h. Mathias Turcotte, je te souhaite une belle fin de journée.
Une très belle fin de journée à tout le monde.
Salut guys, merci d'être à l'écoute de Boulevard 101.